YouTube, j'espère que ça va bien en ce mois d'octobre, j'espère que le début de l'automne est bon, que la rentrée a été bonne, si jamais vous avez une rentrée. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo des découvertes ludiques du mois passé, donc du mois de septembre. Plein de choses découvertes, mais vous allez le voir, pas de top ce mois-ci, pas de jeux qui se sont vraiment démarqués, qui sont sortis du lot. Alors, c'est pas la première fois que ça arrive, c'est sans doute pas la dernière, et c'est pas grave, hein, on peut pas avoir tous les mois des tops, et puis il y a des mois où il y en a 4-5, donc ça s'équilibre. Vous verrez quand même qu'il y a eu quelques belles découvertes, hein, rassurez-vous, il y a dans ce que j'ai découvert des choses que je peux vous recommander, et que j'espère que vous essaierez ici et là. Et évidemment, il y aura comme tous les mois des choses un peu plus décevantes, voilà, des déceptions, des choses plus mitigées également. Juste avant de se lancer là-dedans, je rappelle comme toujours que les images que j'utilise, alors souvent c'est des ressources proposées par les éditeurs, que ce soit des vidéos ou des images, que ce soit sur Board Game Geek ou sur leur site, s'il vous plaît, si vous êtes éditeur, faites un petit onglet presse où on peut télécharger des trucs. Parce que ce mois-ci, il y a quand même quelques fois des éditeurs, et vous verrez notamment sur un segment où je me suis arraché un peu les cheveux que j'ai pas, où il n'y a que dalle, donc voilà. Et moi je suis amateur, hein, je fais ça pour le plaisir, je gagne pas d'argent là-dessus, et ça me va très bien comme ça. Juste, si moi je m'amuse à faire des photos, ça va pas mettre vos jeux en valeur, et en fait ça va me prendre du temps, et ça va m'énerver parce que je serai pas satisfait du résultat. Moi je suis un amateur, vous êtes des professionnels, vous voulez qu'on parle de vos jeux, donc donnez-nous les ressources pour qu'on le fasse. Encore une fois, si j'étais professionnel et que c'était à plein temps, soit je payerais quelqu'un pour le faire, soit je prendrais le temps de le faire, c'est pas le cas. Du coup, merci quand même à Eric de What's Eric Playing, comme toujours, je vous mets son petit Instagram, son petit site, voilà, où il fait des très très jolies photos, lui pour le coup. Voilà, lui c'est son activité principale sur Instagram et tout, et sur Board Game Geek, et m'autorise à les utiliser gracieusement, donc un grand merci, parce que j'utilise son travail là où je devrais avoir utilisé ceux des professionnels du monde de jeux de société, donc voilà. Après ce petit coup de gueule qui revient tous les mois, hein, des fois je l'appuie un peu plus que d'autres, mais voilà, et encore une fois j'attends pas les mêmes choses d'éditeurs qui font leur premier jeu. Ici on voit là-bas Enemy Anemone, qui, bah voilà, ça c'est un tout petit éditeur, j'attends pas le même travail que ceux qui ont fait juste par là, j'ai toujours du mal avec ça, Sides, hein, qui sont les anciens de Repoprod, vous verrez sur le segment de Sides ce que je veux dire. Donc merci encore une fois Eric, c'est très très cool. Comme d'habitude, avant de se lancer, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit pouce qui va bien, à partager tout ça avec vos proches ou sur vos différents réseaux, n'hésitez pas aussi à mettre des trucs dans les commentaires. Que ce soit sur les jeux que vous avez vous découverts, sur les jeux que moi je commente, et si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Voilà, après cette intro qui est ma foi un peu longue, je vous propose qu'on passe vers les déceptions. Allons-y.
On va me dire, oui, oh, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette, parce que ça c'est honteux, ça. C'est pas de la charcuterie, ça, c'est de la merde.
Je vous l'ai dit il y a quelques mois avec Feu de Camp, je suis quelqu'un qui est assez client des jeux d'empilement ou d'adresse, parce que bah, c'est des jeux qui véhiculent assez facilement des moments spectaculaires, des moments de tension, ou qui parfois bah, ça forme aussi des réalisations qui je trouve ont un certain charme. Mais alors là dans Blocks en fait, hein, on a beau empiler des formes, c'est pas vraiment le cœur de l'expérience, on est plus dans du jeu de devinette que du jeu d'empilement, puisque c'est un jeu où il va falloir s'agir de faire deviner à ses partenaires un mot. Et pour ça, en fait, on va utiliser les objets qu'on peut manipuler, donc on est plus dans quelque chose qui rappelle Creativity que le Jenga. Hein. Aussi, on pourrait comparer un petit peu ça à Imagine, mais dans Imagine, qui est un très bon jeu, hein, il y avait la liberté aussi de mettre beaucoup plus d'éléments, ça laissait beaucoup plus de place, je trouve, à la créativité, il y avait même la possibilité d'animer un peu tout ça, ce qui est pas trop le cas dans Blocks, en fait. Alors, il y a un élément qui est quand même chouette dans Blocks, en fait, c'est celui que je retiens. C'est quelque chose que j'aimerais aussi voir un peu plus dans les jeux de société en général, c'est la manière dont on impose à l'adversaire ce qu'il ou elle peut utiliser comme élément. Donc il y a plusieurs éléments, des boules, des machins, des trucs, et on va imposer à l'autre ce que il ou elle va devoir utiliser pour faire deviner son mot. Voilà, on sait aussi le mot qu'il ou elle doit faire deviner, donc évidemment on va essayer de lui proposer des pièces qui vont pas lui faciliter la tâche. Au-delà de ça, au-delà de cette idée quand même, que je le rappelle... plutôt bonne, que j'aime bien, bah tout est un peu dispensable. Hein. L'idée de base est rigolote, Mais les pièces, ben, elles sont pas très nombreuses. On fait vite le tour de leur utilisation. Le contenu en termes de cartes et de mots à deviner, je trouve qu'il est assez léger. Avec beaucoup de cartes aussi qu'on peut personnaliser. On n'a pas besoin de cartes pour ça, les amis. Hein. On peut aussi prendre des bouts de papier et les personnaliser. Là, il y a, je dirais pas la moitié des cartes, ce serait un peu exagéré, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de cartes vierges. Également, il nous a semblé, alors, à confirmer, mais observer sur quand même un jeu de mots comme ça où. Le seul contenu écrit, c'est ça. Des erreurs de traduction sur les mots à faire deviner. Alors, des erreurs, je suis un peu dur. Au moins une erreur. Parce qu'en fait, il y a eu un mot, je crois que c'était jeté, qui était, a priori, on a regardé un peu les autres cartes, le seul verbe de la boîte. Alors que je pense qu'à la base, ça devait être throw ou un truc comme ça, un homonyme en anglais qui a été traduit comme un verbe. Je pense qu'en tout cas, c'est une erreur de trad. Du côté des contraintes de pause, un peu comme pour Feu de camp à l'époque, hein, j'aimais mieux Feu de camp, mais il y avait quand même cette limite-là. Il y a quelques contraintes, genre fermer les yeux, jouer avec sa main gauche. C'est assez pauvre, c'est pas très inventif, pas très original. Et en plus, il n'y a pas de limite de temps, ce qui était aussi le cas dans Feu de camp, hein, par ailleurs. Du coup, ces contraintes-là, elles sont un peu inutiles, parce que, en fait, certes, on doit construire le truc plus difficilement, mais juste si je suis pas très bon de ma main gauche, bah, je vais juste prendre plus de temps. Mais bon, voilà, c'est un peu nul. Alors finalement, quand même, hein, avouons-le, on a quand même rigolé autour de la table. Mais c'est pas le jeu qui était drôle ni bon. C'est la manière, en fait, dont ces contraintes-là menaient à des situations absurdes. Notamment moi qui fermais les yeux et qui ai perdu une pièce sur la table. Mais je pouvais pas rouvrir, alors j'essayais de chercher des trucs et c'était complètement absurde. Mais en fait, c'est des situations où on aurait pu aussi rire dans un Great Western Trail, par exemple. C'est pas vraiment à mettre au crédit du jeu, je trouve. Bref, l'idée de base n'est pas inintéressante. Comme dit, ça peut un peu rappeler Creativity, en moins bien, avec moins de variété. Je trouve que quand même le résultat final est assez fade et assez faible par rapport à d'autres jeux du genre. Alors j'ai la version Big Box de Carson City depuis le tout premier Kickstarter, je crois qu'il était ressorti il n'y a pas très très longtemps. Mais je vous avoue que cette Big Box là qui prend de la place, qui m'a coûté cher, j'ai jamais pris le temps d'y jouer. C'est un peu le malheur de ce qu'on appelle la pile de la honte, de la future joie comme vous voulez. J'avais fait une partie du jeu donc de Xavier Georges, qui est l'auteur, qui a notamment aussi travaillé sur des jeux de Pearl Games et tout. J'en avais fait une partie donc avant le financement participatif sur une version d'un ami qui n'était pas du tout la version KS, qui était une version boutique. Et je vous avoue que j'ai pas des masses de souvenirs, si ce n'est que je crois que j'avais plutôt apprécié le jeu. Mais bon, on parle d'une seule partie, il y a plus de 10 ans. Mais bon, les jeux vraiment marquants, malgré une unique partie, j'arrive à m'en rappeler quand même, je pense par exemple à Diplomacy, c'est que même si j'en ai des souvenirs plutôt bons, ça doit pas m'avoir chamboulé, mais bon, soit. Et donc la version carte, alors c'est encore Xavier Georges qui est derrière, hein, même auteur. Je pourrais pas du coup faire un peu la comparaison de l'esprit de Carson City, à quel point est-ce que ça se place dans la filiation, à quel point ça en reprend des principes. Est-ce que Carson City était déjà du City Builder, je sais plus trop, il me semble qu'il y avait des comparaisons avec Keylus, mais pff, à quel moment. Par contre, ce que je sais, c'est que j'ai trouvé ça vraiment assez moyen, la version carte, et que ce soit en version mobile, qui est vraiment la version mobile, alors... C'est peut-être pas... déjà, c'est un jeu peut-être un peu long pour le mobile, mais ça, à la limite, moi, je suis capable de jouer à route sur mobile, bon, plutôt sur tablette que sur téléphone. Mais alors, cette version-là, elle est vraiment pas très très agréable à manipuler, à regarder comment scorent les cartes et tout, c'est assez laborieux. Et sur Yukata, j'ai essayé aussi parce qu'il est dispo là-bas, et c'était pas juste, entre guillemets, l'interface mobile qui faisait que j'ai pas aimé le jeu. J'ai vraiment le sentiment d'un jeu, ouais, assez quelconque, où ben, on va superposer quelques cartes, comme dans plein de jeux. Il y a des scoring qui vont être comme dans tous les city builders, les jeux de construction de ville. Ça va être, ah ben si tu te mets à côté de ça, ça va te rapporter des points, mais si tu fais ci, ça va te rapporter des points comme ça. Alors ça peut vous plaire, moi je sais que ouais, j'ai déjà vu ça plein de fois, j'ai Suburbia qui me convient tout à fait là-dedans, et que je trouve assez cool. Là, celui-là apporte pas grand chose, je trouve, si ce n'est qu'effectivement c'est pas le même format de boîte, et ni le même prix qu'un Suburbia. Mais ouais, il y a plein de jeux qui ont déjà fait ça, de manière parfois plus claire, plus originale, plus jolie aussi, plus immersive. Alors ici, il y a quand même deux trucs que je retiens. Il y a les personnages, qui sont des trucs sur les qu'on peut acheter à la place des cartes bâtiments et tout ça, paysages. Mais la plupart des personnages, malheureusement, je les trouve pas très très intéressants, parce que du coup, ça va être plutôt des personnages qui vont valoriser tel axe ou tel axe pour les scoring. Même s'il y en a qui sont un peu plus intéressants, qu'on va utiliser de manière plus circonstancielle pour justement avoir une influence sur le système d'initiative et de mise d'enchères. En gros, ouais, c'est ce système-là que je retiens aussi, qui se passe avec des cartes qui ont des valeurs de X à X, je ne sais plus exactement de combien à combien ça va. On a tous et toutes les mêmes cartes, on a tous et toutes un exemplaire à tel ou tel moment, du coup, en fait, on révèle, on choisit de manière simultanée et cachée un exemplaire des cartes, Et évidemment, ça va déterminer l'ordre d'initiative. Assez classique, on fait ça sur deux manches. Assez classique, c'est quand même un système que j'aime bien, moi, ce choix simultané. C'est comme Valbara, c'est comme Libertalia et compagnie. Hein. C'est là aussi pas très original, mais disons que moi, c'est un truc que j'aime plutôt et qui va créer forcément l'interaction, puisque ça va déterminer quelle tuile ou quelle carte on va prendre avant les autres. Et ça force un peu à regarder à quel point j'ai envie de dépenser ce tour-ci, à combien ça va me rapporter, etc. Ce qui mène aussi peut-être un peu à de l'analysis paralysis. Moi, j'ai joué vraiment sur mobile, donc peut-être pas, mais je pense qu'en vrai, t'es là et t'essayes d'évaluer. Je pense que c'est assez dur d'évaluer sans aide numérique qu'est-ce que rapporte chaque truc. Et ça, je sais que moi, c'est un truc qui me pose pas mal de problèmes. Mais sinon, ouais, faut vraiment, ouais, c'est un truc où il faut. C'est des dynamiques que j'aime bien, le côté évaluer ce que le jeu va nous offrir, puisque. C'est très opportuniste, hein. Et combien on est prêt à donner, un peu aussi comme dans un Isle of Sky, même si dans Isle of Sky c'est pas une rivière de cartes, c'est par rapport aux autres, donc encore une autre interaction. Et d'un certain point de vue, je sais pas ce qui est préférable en fait, parce que l'expérience physique, je l'ai dit, je pense que ça peut mener à de la grosse analysis paralysis que je déteste, mais d'un autre côté, je crois que les cartes utilisées restent visibles, et que c'est plus simple du coup de voir qui a posé déjà quoi, et donc de plus déterminer, je suis le seul à avoir la carte maîtresse, donc je suis sûr de choisir ce genre de truc. Si vous êtes pas rebuté par les visuels, que je trouve aussi pas très joli, les personnages ça peut passer, mais franchement les cartes ouais c'est assez, je sais pas, c'est pas merveilleux. Si vraiment le city building dans des zones un peu restreintes c'est votre truc, avec des petits scorings d'adjacence et compagnie, pourquoi pas, sinon passez votre chemin, je pense, hein, vous avez déjà vu ça 100 fois, c'est un jeu de cartes qui va pas apporter grand chose à ce que vous pouvez avoir rencontré ailleurs, et juste moi ça va me donner l'envie de ressortir en fait la version de base de Carson City, donc le jeu qui n'est pas le jeu de cartes, pour voir si finalement c'est un jeu qui a quand même passé le cap des années, ou si je vais l'envoyer sur Ocaseo, parce que finalement le fait que j'ai rien retenu de ma seule partie, il y a peut-être une bonne raison derrière ça. On va passer assez vite sur celui-ci, c'est un petit jeu de cartes qui est arrivé chez Yellow. Il est annoncé que ce soit sur BGG ou sur la boîte pour 10 minutes. C'est incroyable parce que, en fait, c'est beaucoup plus long que ça si on respecte la partie standard, mais même la partie courte ne dure pas, je crois, 10 minutes. On a joué 40 minutes, hein, nous, à 3. Peut-être un peu lentement, mais j'ai pas eu ce sentiment non plus, donc bon. On est dans du tout petit jeu de cartes pour taper le carton, quand même se faire quelques crasses, essayer de faire au mieux, et il va falloir accepter, évidemment, de ne pas pouvoir tout maîtriser, hein, y a pas mal d'aléatoires et tout. Le but, c'est assez simple, on doit faire avec ce que le jeu nous offre, mais y a quand même des petits moments de choix qui sont intéressants, où on a l'impression de prendre un peu la main sur le jeu, que ce soit d'ailleurs notre jeu ou celui des autres qui vont jouer après nous. L'idée, hein, comme l'annonce le titre, c'est d'essayer de faire des grands fossés, donc des grands écarts entre, comme Jean-Claude Van Damme, pour essayer de maximiser ses points, en gros, entre les cartes qu'on a le plus et celles qu'on a le moins. Et notamment, ouais, il y a la recherche parfois de l'égalité qui permet de scorer beaucoup et tout. C'est pas inintéressant de ce point de vue-là sur vraiment certains points, mais c'est pas assez souvent qu'on a ces espaces de choix et que ces espaces de choix sont intéressants. Ça reste un petit peu plan-plan, ça manque de dynamisme. Moi, j'ai fini par trouver le temps long. Je reste assez client de ce genre de petit jeu de cartes. Je pourrais y rejouer à Gap, je pense, mais c'est un jeu que je vais avoir oublié très vite. Et en fait, il y a plein d'autres jeux du genre que je sortirais plus volontiers, comme par exemple Mind Up, dont je vous parlais il y a quelques mois. Donc voilà, pas nul, mais pas non plus mémorable. Rappelez-vous, le mois dernier, je vous ai parlé de Jérémy, cet ami du collège que je salue. On va recommencer, mais là, il va être que pour un seul jeu, et malheureusement, qui s'est avéré être une déception. Donc c'est un jeu de pli, il s'est dit que il connaît ma passion pour les jeux de cartes, donc il s'est dit, allez, Agakure, t'y as jamais joué, moi je l'ai, tu l'as pas, tu le connais pas, allez, c'est l'occasion de te le présenter. Ce qui est vrai, il a eu raison, dans l'ensemble, même si le résultat a pas été toujours très marquant, moi j'adore découvrir des trucs, notamment du côté des jeux de pli. Et donc du côté des auteurs, on retrouve des personnes dont j'ai parlé plusieurs fois, et rarement en positif, c'est Franck Critin et Grégoire Larget. On les connaît parce qu'ils ont travaillé notamment avec Sébastien Pochon, vous savez, c'est le fameux Lartinchon, ou Lartichon, je sais plus, Lartinchon je crois, qui a travaillé sur Botanique, sur Champion, sur Maui. Botanique est pas mal, hein, Champion est pas si pire, Maui c'est vraiment nul. Et le deck de Agakure est pas inintéressant, on n'est pas dans du truc où il y a 4 couleurs et X cartes. En fait, il y a que 2 cartes et chaque valeur est unique, alors c'est pas le seul jeu de pli à faire ça, mais c'est quand même plutôt rare. Il y a aussi quelques cartes spéciales qui apportent un peu de piquant ici et là. Le scoring il est assez bateau aussi, il y a en gros 1 point par pli, mais si on fait 0 pli on fait moins 2, mais surtout ce qui va disons, le différencier du reste, c'est qu'en début de chaque manche, on a la possibilité, c'est pas obligatoire, d'utiliser un petit jeton, je sais pas, pouvoir, ou je sais pas exactement comment il l'appelle, qui va un petit peu modifier le scoring, qui va dire par exemple, bah là, tu vas, si je sais plus exactement, mais en gros, tu vas multiplier par 2 tes points, donc si tu fais du négatif, ça se multiplie aussi par 2, hein. Là, même si tu marqueras 0 points à ce tour-ci. Je vous avoue que les pouvoirs sont pas très originaux, ils sont pas assez... Et manque un peu de folie pour donner un peu du peps à la phase de pli et à l'enjeu de chacun des plis, de chacune des mains. Il y a un autre truc que je retiens quand même qui est intéressant pour un jeu de pli, qui pourra en frustrer beaucoup. Voilà, c'est, je l'ai dit, hein, les cartes sont uniques, mais surtout, on en met pas mal de côté, et il n'y a que 4 cartes en main. C'est vraiment pas beaucoup pour un jeu de pli. Vraiment, vraiment pas beaucoup. Il y a quelques contraintes de pose, bref, je vous passe le détail, mais 4 cartes en main, c'est assez original, je pense, pour le coup. Moi, j'ai apprécié le... Enfin, j'aime bien ça, le côté... parce que du coup, ça fait des mains très très rapides, même si, ben, forcément, ouais, le contrôle est un peu moins là. Bon, c'est vraiment un jeu de pli où on tape le carton, il y a ici et là quelques choix, mais bon, assez vite répétitif. Et je vous avoue que, ouais, il y a plein d'autres jeux du genre que je préférerais jouer avant Agakure. Je vous avais parlé il y a quelques mois du jeu Sunset Overwater chez Pencil First Games, en vous disant que sans doute il y aurait d'autres jeux de cet éditeur dans les mois à venir. Bon, il n'y en a pas eu finalement avant celui-ci, qui s'est avéré par ailleurs totalement inintéressant. Alors il paraît, on m'a dit que c'est un jeu à jouer à 3 ou 4. Donc bon, gardez un œil sur les hebdos jeux de société, peut-être que je leur donnerai une chance à plus. J'ai joué que à 1 ou 2, mais en l'état, j'avoue que j'ai trouvé ça vraiment très très nul. Et j'ai été d'autant plus étonné de le voir si bien placé dans le top des BGG, parce qu'il est quand même dans le top 1000 ou pas loin. C'est assez épatant. Donc j'avais joué à 2 courant août, et alors il y a un flux de jeu qui est pas nul. En gros, on prend une carte, on choisit si on la pose dans son jardin privé ou dans le jardin collectif, ou toutes et tous vont avoir accès, et puis on en prend une deuxième et on pose là où on n'a pas posé la première, en gros. Mais voilà, tout ça c'est assez ennuyeux, parce que on a 4 méthodes de scoring au cours de la partie, qu'on peut activer chacune une seule fois, mais c'est toujours les mêmes. C'est avoir des herbes différentes, c'est avoir des herbes qui sont les mêmes, c'est avoir quelques herbes spéciales qui rapportent un peu plus de points. Voilà. Et alors, évidemment, tout l'intérêt du jeu va être un peu dans le rythme pour valider un objectif de collection on va essayer de le valider au moment le plus pertinent, parce que, comme dit, on pourra le faire qu'une fois dans la partie. Alors évidemment, on va avoir envie d'attendre pour maximiser les points qu'il va rapporter, mais on peut pas faire ça pour tous les objectifs. Donc en fait, il faut vraiment trouver de meilleurs moments pour marquer des points les plus intéressants. Le moment où, sans qu'attendre, en fait, ben, on risquerait de se voir piquer les plantes qui pourraient nous intéresser dans le jardin collectif, etc. Il faut aussi un peu faire gaffe aux cartes qu'on gagne, parce qu'elles rapportent quelques points à la fin. Donc bon, il y a quand même un peu à faire attention au jeu des autres, mais je vous avoue que à deux, quel ennui, c'est très très fixe, on enlève la moitié du jeu, donc on peut même pas trop contrôler vraiment ce qu'il y a. Le rythme du jeu, il est très très plat, on se fait chier alors que le jeu il dure 15 minutes. Il n'y a aucun enjeu, en fait, alors que les histoires de tempo, ça doit apporter de l'enjeu, ça doit apporter de l'attention là, que dalle. Et alors j'ai essayé le mode solo, parce que justement, en fait, Sunset Overwater, dont je parlais plus tôt, ouais, il modifie un peu son système, et il arrivait à être un peu plus tendu dans son mode solo. Je me suis dit, pourquoi pas, peut-être que Herbaceous aussi, c'est le cas. Et ben, pas du tout. Et j'ai fait une seule partie solo, et j'ai pas spécialement fait gaffe, je suis pas spécialement performant en général dans les jeux, j'ai pas été soucieux de maximiser le score, et en vrai, ça m'a amené à un point de la meilleure catégorie de score. Donc le système est pas plus intéressant, il y a aucun challenge pour essayer de se dire, ah, je suis peut-être passé à côté de quelque chose, peut-être qu'il y a moyen de s'améliorer. Bon, et en plus j'aime pas spécialement les systèmes de score dans les modes solo, ça je le dis à chaque fois. Donc bon, gardez peut-être un œil sur mes autres formats au cas où, si jamais à plus c'est plus intéressant. Je vous avoue que j'ai vraiment la flemme de le ressortir, parce que j'ai essayé plusieurs fois avec plusieurs personnes, et ces dernières semaines c'est vraiment une des expériences les plus plates et ennuyeuses que j'ai eues. Si vous me suivez depuis quelque temps, alors vous savez que j'adore les jeux de pli, hein, mais vous connaissez aussi peut-être mon aversion pour les jeux à information complète, les jeux abstraits. Moi j'adore quand il y a un peu d'aléatoire, alors il faut bien sûr équilibrer tout ça, mais j'adore que ça réserve des surprises, j'adore quand il y a un peu de chaos, ça force à s'adapter au jeu et pas seulement à ce que fait l'adversaire. Bref, moi j'adore qu'il y ait de la vie dans les jeux, hein. Voilà. Ça m'éloigne forcément de plein de jeux qui sont par ailleurs passionnants à analyser en termes de game system, mais voilà, Microdojo du coup, ben, il échappe pas à cette règle, hein, mais quand même, j'ai joué uniquement sur Board Game Arena, et je dois reconnaître que même si j'aime pas le genre, ça, voilà, j'y peux pas grand chose. Il a quand même des éléments pour lui qui, je trouve, sont assez intéressants et qui m'ont un peu séduit et qui m'ont donné l'envie d'y revenir ou de le faire découvrir. Même si, ben, forcément, finalement, ben, moi, mes parties, elles étaient pas ouf parce que j'aime pas les jeux abstraits, parce que, voilà, c'est la globalité de l'expérience, c'est pas à mon goût. Mais ce que j'en retiens, et que j'aime beaucoup, j'en avais parlé dans Wild Space, que j'avais aussi trouvé assez décevant, pour d'autres aspects, mais c'est le côté très 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 resserré du game design. On est sur un tout petit plateau de 9 cases seulement, l'espace de décision il est hyper réduit, parce qu'on peut que bouger un pion, et en plus il y en a qu'on n'a pas le droit de bouger, donc le choix il est très vite fait, on voit très vite les enjeux de chaque mouvement, on peut aussi très très vite bloquer l'autre, le conflit du coup il va être assez rapide également, on va vite se mettre l'autre à dos. Je trouve qu'il y a aussi des petits objectifs et tout, on arrive à situer à quel moment on va plutôt viser celui-là ou celui-là, comment on va se préparer à cet objectif, ou plutôt à celui-là qui arrive plus tard. On va essayer d'optimiser un peu la prise des bâtiments, à la fois parce qu'ils ont des pouvoirs intéressants, mais il faut aussi trouver le bon moment pour s'en séparer, pour grappiller quelques points, puisque le but c'est de gagner 7 points, hein, donc c'est une course. Ce qui est aussi plutôt un truc que j'aime bien, même si finalement beaucoup de jeux abstraits sont quelque part une course. Je sais pas si on peut parler de course par exemple dans les échecs où la course c'est mettre l'autre mat en premier. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires si c'est pertinent comme comparaison. Là il y a le but d'arriver à 7 points, donc en gagnant des objectifs ou en vendant des bâtiments. Le mode avancé d'ailleurs, je trouve que les objectifs sont un peu plus intéressants parce que c'est pas juste avoir le plus d'argent ou le plus de nourriture ou avoir le plus de bâtiments, ce genre de trucs. Il y a notamment des questions de placement qui donnent une autre lecture au jeu, et parfois ces objectifs-là forcent en fait à opposer, à prioriser un petit peu, et ça offre un petit peu plus d'opportunisme, et on va se dire ah là j'aurais bien ça, mais en même temps si je fais ça, ça me donne potentiellement cet objectif, etc. Après voilà, bon, le cœur c'est la collecte de ressources, hein, je l'ai dit, les deux ressources c'est la bouffe et puis la thune, c'est un peu mollasson, tout est visible, donc on est vraiment dans du jeu abstrait, on peut évaluer tous les embranchements, c'est quelque chose que j'aime pas du tout. Mais quand même, je trouve malgré tout ce côté très très resserré, très très étroit, on peut y jouer un peu plus à la cool, sans voir des 12 coups à l'avance, et on peut assez vite évaluer les options qui nous sont proposées. Alors voilà, moi j'y jouerai sans doute quasiment jamais, c'est vraiment pas mon genre de jeu, j'y prends pas de plaisir, mais des jeux abstraits que j'ai pu essayer ces dernières années, j'en essaye pas beaucoup parce que je sais que j'aime pas ça, alors c'est plus de la curiosité qu'autre chose, mais je pense que Micro Dojo c'est sûrement l'un de ceux auxquels j'ai pris le plus de plaisir à jouer, toute proportion gardée, même si, je l'ai dit, hein, les jeux abstraits j'aime pas ça, mais je trouve que c'est des jeux passionnants à décortiquer, je pense que Micro Dojo n'est pas le plus intéressant à décortiquer, mais voilà, en termes de plaisir de mon côté, disons que c'est pas le pire. Je crois que je l'avais dit quand j'avais parlé de King Domino Duel il y a quelques mois. King Domino, aujourd'hui encore, c'est un jeu que j'aime bien sortir de temps à autre, que je respecte, même si il a toujours ses côtés appréhension de l'espace qui, moi, ça me laisse toujours un peu de côté parce que j'ai vraiment du mal. J'avoue que j'aime beaucoup moins l'idée d'univers étendu qui se crée autour de la licence. Et de manière générale, c'est quelque chose avec lequel j'ai du mal et qui souvent est peu porteur de jeux vraiment marquants. Souvent, en fait, c'est des trucs, ça rajoute des trucs au système et ça en vaut pas vraiment la peine. Et en fait, en rajoutant des trucs, on s'éloigne un peu de ce qui fait la force et l'élégance du jeu de base. Alors parfois ça marche, Dragomino, je trouve que c'était très bien, par exemple, en proposant une expérience vraiment différente et destinée potentiellement à un autre public, mais même le public de King Domino pouvait prendre du plaisir sur Dragomino. C'était pas un King Domino moins, entre guillemets, c'était autre chose. Et parfois pas, bah, je vous parlais de King Domino Duel, que je trouvais vraiment assez inutile comme implémentation, et je vous avoue que Queen Domino ne m'attire pas du tout non plus. Et alors Moon River, lui, donc c'est un héritier de King Domino, mais il dit au revoir au fin en Mino. Mais c'est bien une variation du succès de Catala chez Blue Orange. Évidemment, on essaye de surfer sur la licence, alors... Oui et non, parce que c'est vrai que de retirer le Mino, même si les palettes de couleurs et tout se rapprochent évidemment du jeu de base, peut-être que ce sera moins évident. Mais évidemment, l'idée c'est aussi de rapporter que la licence elle continue de rapporter, un peu comme pour un Seven Wonders ou quoi. Ça n'est rien de la qualité du jeu, hein, c'est juste une dynamique éditoriale. Et donc, pour l'occasion, Bruno Catala il a été rejoint par Johan Servet. C'est un auteur que je connais pas trop, mais vous pouvez en entendre une interview par Paul Garat dans son podcast Le Point de Paul Garat, je vous mets ça en description. Je sais pas du tout qui a apporté quoi là-dedans, vous savez, toujours avec ces catégories où il y a quelqu'un qui rejoint, on se dit ah, il est associé, mais est-ce qu'il a travaillé dessus, etc. Aucune idée, j'en sais rien. Mais en gros, l'idée, c'est qu'on va couper les dominos en deux avec des pièces en forme de puzzle, et on peut donc créer les dominos qu'on veut, associer des terrains librement. Donc un peu plus de flexibilité, un peu plus d'espace de choix à un moment autre que celui du choix du domino. Le système de prise et d'initiative, c'est celui du jeu de base. Moi, pour moi, c'est un des grands trucs de King Domino. J'aime beaucoup son système de prise et de comment on prend l'initiative. Je trouve ça super élégant, même d'un point de vue de la gestuelle que ça met en place. C'est toujours le cas ici, c'est un système que j'aime bien et je l'aime toujours. Mais bon, on garde quand même les grands principes en termes de points de victoire avec l'histoire des multiplications. On rajoute quand même des petits jetons qui vont rajouter des éléments de score, qui vont permettre de déplacer des trucs, qui vont permettre d'optimiser un petit peu les placements de ce qui fait marquer des points. Y a aussi quand même quelques éléments d'interaction plus directs, plutôt une bonne chose de mon côté, King Domino, c'est un jeu où il y avait de l'interaction déjà. Le système d'initiative, c'est un jeu qui permet pas mal de blocage et de surveillance de l'autre. Quand on joue à deux, des autres, c'est un peu moins le cas quand on joue à quatre, mais à deux, il y a quand même beaucoup d'interaction déjà dans King Domino. Reste que, bon voilà, en termes de sentiments, on reste en terrain très connu, ce qui j'imaginais le but quand on reste dans la licence. Mais je vous avoue que tous ces petits ajouts de flexibilité, de jetons et tout, ça fait que ralentir le rythme du jeu. Un jeu qui sinon était vraiment assez fluide. Ça rajoute aussi des moments et des ouvertures de choix, des nouveaux enjeux en fait, que je trouve assez superflus en termes de ce qu'ils prennent comme temps et comme énergie ou comme espace de choix et par rapport à ce qu'ils peuvent rapporter en termes de sensation de jeu. Je trouve que ce qu'ils nous demandent par rapport à ce qu'ils apportent, c'est pas vraiment intéressant. Encore une fois, je l'ai déjà dit, j'ai d'autres comparaisons comme ça, que ce soit King of New York, que ce soit Welcome to Las Vegas, je trouve qu'on est dans une volonté de rajouter des couches en fait sur des recettes qui brillent justement par le fait qu'elles sont simples et qu'il faut pas rajouter ces couches-là qui apportent pas un goût assez différent pour valoir le coup d'aller au-delà de la curiosité. Donc bon voilà, Moon River, j'ai pas trouvé ça merveilleux. Et on finit avec une découverte que j'ai faite une fois de plus, il y en a presque tous les mois, mais grâce à l'application Trickster's Table. Je vous en parle régulièrement dans ce format, et comme d'habitude, je vous mets le lien dans la description. Ça permet de découvrir plein de trucs contre des IA. Et alors, Splitter, j'en avais déjà entendu parler, je crois que c'était sur Board Game Geek où j'avais vu une partie, et donc sur Trickster's Table, c'est juste un mode solo qui reprend, et je pense qu'en vrai, c'est à peu près pareil qu'à plusieurs, puisqu'on utilise les dés, il n'y a pas vraiment de système d'interaction ou de privation de dés. On est dans du jeu à coucher, avec des grilles symétriques, on va lancer 2 dés, et on doit mettre les deux valeurs dans des cases qui sont opposées par l'axe de symétrie, et bien sûr, on va essayer de mettre les 1 tout seul, les 2 par 2, etc., pour marquer autant de points que le groupe en question, donc si j'arrive à mettre 6-6, bah, je marquerai 6 points. Sauf que si je fais 7-6, et bah, ça vaudra 0. Alors évidemment, petit à petit, les possibilités vont se restreindre dans la grille. Y a quelques cases qui vont aussi permettre de scorer plus, de doubler la valeur de trucs ou quoi. Il y a aussi une autre grille, donc il y a les 2 grilles sur l'application. Je vous avoue que j'ai très très vite fait le tour du jeu, que ça se renouvelle pas des masses. Ça se joue en une minute, il y a le côté un peu addictif de la Candy Crush, mais est-ce que ça fait de Candy Crush un bon jeu? Je ne sais pas. Est-ce que ça fait de Splitter un bon jeu? Non plus, je ne pense pas. Et je vous avoue qu'il y a un côté aussi où, comme ça se restreint en fait, et que il n'y a aucun moyen de contrôler les lancers, les derniers lancers, qui sont totalement hasardeux, ça peut être ultra frustrant parce qu'en fait ça peut complètement éclater une partie et sans qu'on ait aucun moyen de le prévoir ni de le contrer. Donc bon, de temps à autre, pour tuer le temps, entre guillemets, je relance l'appli, mais rien de bien marquant pour ma part, ça doit être le jeu que j'aime le moins sur l'application. Voilà, comme vous l'avez vu, pas mal de choses un peu mitigées de mon côté, aussi des choses qui sont pas vraiment faites pour moi, je pense ici aux jeux abstraits, même s'il y a vraiment des jeux comme celui-ci, la Blogs en fait, où vraiment, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à sauver là-dedans. Heureusement, il n'y a pas que des déceptions dans la vie. Alors, je l'ai dit, il n'y aura pas de top, donc il n'y a plus qu'une partie, c'est les jeux que j'ai jugés pas mal, les expériences plaisantes. Il y en a quand même quelques-unes, vous allez voir, plus que de déceptions, et à différents niveaux, et quand c'est pas des tops, c'est parfois des trucs qui demandent à être confirmés. Il n'y a aussi pas de top, parce qu'il y a des jeux que j'ai joués que j'ai beaucoup aimés, mais donc j'attends de faire plus de parties pour voir si ça va être vraiment un top, ou si c'est juste un truc pas mal dans différentes configurations ou à d'autres occasions. Mais donc allons-y, là ce dont je vais vous parler, c'est des choses que j'ai bien aimées pour différentes raisons, parfois j'ai été un peu tolérant avec, vous le verrez. En tout cas je vous les recommande quand même, au moins de jeter un œil si le genre en question vous intéresse. Allons-y donc pour les expériences ludiques que j'ai trouvées pas mal. On commence avec un jeu qui s'est promené entre cette catégorie et la précédente. C'est donc Biotope, qui est, je crois, le premier jeu de l'éditeur. Et c'est un jeu qui s'engouffre dans les propositions de thématique nature, avec l'envie de coller un peu par une forme d'écosystème mécanique où les différents éléments du jeu sont censés se rencontrer pour proposer des actions et des dynamiques qui sont un peu imbriquées les unes aux autres, ce genre de trucs. C'est assez facile, Biotope, de le placer dans une certaine école de game design qui emprunte à beaucoup beaucoup de choses des jeux de ces 5 dernières années, avec, je trouve, moi, un peu trop de choses, notamment, et notamment trop de choses qui sont pas vraiment passionnantes. Et ce qui lui évite un peu la catégorie précédente, c'est que y a quand même un plateau central. Et alors, on a fait une partie à 4, et sur ce plateau-là, il s'y passait quand même pas mal de choses en termes d'interaction, avec de la bagarre pour des territoires, pour créer des zones continues, donc voilà, je te pousse, tu me pousses, j'essaie de profiter d'un truc, mis en gouffre. J'essaie de préparer un peu l'interaction que je dois mener avec toi. J'avoue que je retiens un petit peu moins tout ce qu'on fait de son côté, puisque voilà, c'est des trucs avec des petits cubes, des petites optimisations pour marquer un peu partout, sans qu'il y ait vraiment une ligne claire qui se dégage de l'ensemble. Donc c'était pas un mauvais moment, peut-être un poil trop long, ça mériterait un peu de d'élagage. Je pense que si on me le repropose, j'y jouerais peut-être, mais dans les jeux sortis cette année, je préfère Earth, dont je peux le rapprocher en termes de foisonnement de trucs, même si le système est assez différent. Dans Earth, je préfère par exemple le système d'action que comment ça se passe dans Biotope, ou bien autre ascendant, je pense, on peut citer Wingspan, et je préfère clairement dans Wingspan aussi la clarté d'exécution au côté un peu plus fouillis de Biotope, qui était, je le rappelle quand même, pas un si mauvais moment que ça. Il n'y avait pas de Rainer Knizia le mois dernier, et on va reprendre les bonnes habitudes avec un jeu qui date cette fois de 1998, qui a plutôt une bonne réputation, et j'avoue avoir craqué dessus spécialement pour sa version japonaise, que je trouve absolument magnifique, notamment la boîte, donc c'est Circus Flocati, mais je crois que si on traduit vaguement en japonais, en tout cas si j'en crois, mais truc de traduction, c'est Souvenir d'été. Le thème de base, on l'a dans le nom du jeu, Circus Flocati, c'est le cirque. Et dans tous les cas, le thème, on est dans un jeu de cartes, et le thème passe très clairement au second plan, au-delà des visuels. Et d'ailleurs, une petite anecdote, mais en parlant du jeu au cours d'un hebdo jeu de société, on a un peu fait le tour des différentes versions, et c'est vraiment un jeu qui brille par une forme de variété des choix artistiques qui sont proposés selon les années, selon les pays. Je vous invite vraiment à regarder les différentes versions de Circus Flocati, ça vaut vraiment le détour, et je pense qu'on peut être plus attiré par tel ou tel choix visuel que par tel autre. On est dans un jeu qu'on pourrait rapprocher de Hit, HIT, un peu le jeu de voiture, donc de Rainer Knizia, est sorti nettement plus récemment, il y a quelques années seulement, mais qui a quand même des spécificités bien à lui, même si on est dans un moteur de jeu qui est le stop ou encore, et le stop ou encore où on retourne des cartes et on essaye de pas avoir des doublons. Comme dans Hit, comme dans beaucoup de jeux, on peut exploser entre guillemets et mettre fin à notre tour si on révèle deux fois des cartes de la même couleur. Mais au-delà de cette mécanique là, de ce cœur mécanique, il y a un but quand même qui est assez différent, la structure n'est pas non plus la même, et ça évite le côté trop redondant, ça évite aussi de considérer Hit comme une simple refonte de Circus Flocati, chose que les refontes, il sait très très bien faire, hein, Rainer Knizia, c'est pour le meilleur ou pour le pire. Mais ici, dans Hit, on explose si on prend de notre côté deux cartes pareilles. Alors que là, la ligne où on peut exploser en révélant la même carte, elle est centrale, elle est collective, elle n'est pas personnelle. Et si on explose, on va défausser que la carte qui nous a fait exploser, on passe son tour. Mais du coup, les autres cartes de la rivière, elles vont rester. Et les adversaires vont pouvoir les récupérer éventuellement. Et là où dans Hit, si on révélait une couleur déjà présente, ça permettait de faire du coup tourner un peu les cartes autour de la table. Ça faisait un peu rager, ça faisait de l'interaction et tout, pas mal de dynamique. Ici, du coup, l'interaction, elle intervient surtout par la centralité de la rivière et par quelques cartes à effet que j'aime bien, même si là encore, pour donner un peu plus de peps, j'aurais aimé que ce soit encore plus varié. Il y a aussi le fait que dans Hit, on a les cartes face visibles devant soi, donc qui circulent, etc. Alors que là, on a une main de cartes. Donc c'est encore une fois des dynamiques différentes, et la grosse différence c'est dans le pourquoi on récupère des cartes. Dans Hit on en fait une pile de points, alors que là on les prend en main et on est plus dans un aspect collection, optimisation de sa main, puisque pour chaque couleur qu'on va avoir en main on va marquer que les points de sa carte de plus haute valeur, et du coup toutes les autres cartes de cette couleur deviennent inutiles. Sans rentrer dans les détails, il y a d'autres facteurs qui peuvent justement nous pousser à récupérer quand même des cartes qu'on pourrait juger inutiles, parce qu'on peut mettre des points d'eau de manière alternative, par exemple en faisant des trios, des brelans de numéros. Et du coup, au-delà du choix du stop ou encore, il y a plein de petits espaces de décision que j'aime beaucoup. Alors c'est un jeu beaucoup moins direct, beaucoup moins dans ta face, beaucoup moins simple que Hit, qui est vraiment, Hit c'est d'une pureté assez difficilement égalable dans son genre. Ça lui donne une saveur autre qui est pas désagréable, qui a ses particularités. Et alors pour moi c'est un peu moins brillant et renversant que Hit et son immédiateté, ça a quand même permis à Circus Flocati de trouver sa place dans ma ludothèque. Et c'est pas le genre de jeu où je vais me dire, comme ça peut arriver, pourquoi est-ce que je sortirais Circus Flocati alors que je peux sortir Hit. Il y a vraiment de bonnes raisons de le sortir plutôt que Hit, en fait. Du coup, c'est vraiment un jeu que j'ai pris pour la réputation et puis vraiment la beauté de son édition. Et finalement, je le garde et je le ressortirai pour la qualité de ses parties. Alors celui-ci, je vais passer rapidement dessus parce que j'ai fait toute une vidéo sur Enemy Anemone dans un nouveau format qui est donc C'est Plié. Je vous mets tout ça en barre d'infos. Donc c'est un jeu qui est Enemy Anemone, un must not follow, un peu comme Potato Man dont je vous ai parlé il y a quelques mois. Donc on n'a pas le droit de jouer une couleur qui a déjà été jouée. Il faut jouer une carte de couleur différente de celle jouée précédemment. Mais la grosse différence par rapport à Potato Man et d'autres jeux du genre, c'est que si on ne peut pas jouer, ça met pas fin au tour et à la main, comme c'est le cas donc dans Potato Man, mais au contraire, on peut scorer une carte de notre main. Je pense qu'entre les deux dynamiques, je préfère ça, même si je trouve que c'est une situation qui se présente pas assez souvent, en tout cas à deux, pas assez. À plus, c'est un peu plus le cas, mais c'est quand même un peu trop rare. Par contre, j'aime bien l'autre élément principal du jeu, à savoir les fameuses anémones du titre. Puisque c'est l'enjeu principal de choix à différents moments. Est-ce que je vais jouer telle ou telle carte? Si je joue telle carte, il y a des chances que je récupère une anémone qui va me donner de la flexibilité. Par contre, si je joue celle-ci, peut-être que je vais gagner le pli, ce qui va me donner des points. Alors c'est pas un jeu ultra mémorable, moins que d'autres jeux de pli comme un Yet ou quoi dont j'ai parlé plus récemment, mais je trouve que Enemy Anemone est assez solide dans son genre. Même si voilà, vous irez voir la vidéo, je parle un peu de l'édition, on pourrait râler notamment sur le choix des couleurs, même si pour le coup il y a le double index qui est cool. Également ce qui est cool, et je trouve que les éditeurs un peu plus mainstream devraient un peu en prendre de la graine, le packaging est vraiment nickel, c'est exactement ce que je veux dans ce genre de jeu. Donc je vous conseille d'essayer, c'est facile à émuler, ça constitue une bonne porte d'entrée à ce genre qui fleurit pas mal ces derniers mois. Il y a Tricky Time Crisis, il y a Aurum notamment. Et notamment, alors je disais que à deux, le twist de scorer son truc ne produit pas assez, mais c'est ma configuration principale quand même ces dernières semaines, et je trouve que c'est un bon jeu à deux, ce qui n'est pas non plus toujours le cas dans ce genre de jeu, donc n'hésitez pas à essayer Enemy Anemone. Quelle curiosité, ce Far Away, c'est un jeu que je trouve assez vain dans son but, parce que comme trop souvent chez ses auteurs, c'est des éléments de scoring qui ressemblent un peu à tous ceux de leurs autres jeux, et en vrai à tous les jeux qui sont sortis depuis 10 ans. J'en parlais un peu le mois dernier avec Elawa également, et pour moi, clairement, ces deux auteurs-là, qui sont les mêmes, c'est parmi les moins inventifs du secteur, avec des productions qui à chaque fois me laissent sur le côté, et où je me pose la question du « mais pourquoi est-ce qu'on édite encore ça, alors que vraiment ça apporte pas grand-chose ?» Mais là, Far Away, malgré mes réserves, il y en a, c'est un jeu dont j'ai fait pas mal de parties, et c'est un jeu surtout qui me donne envie de produire du discours. Et ça, c'est cool. Je le fais découvrir avec... j'ai envie de le faire découvrir avec quasiment toujours... j'enchaîne deux parties. Le temps de découvrir en fait le système de jeu, ce scoring qui se fait au retour du voyage, entre guillemets, et qu'on prépare à l'aller, et là-dessus, pour le coup, j'ai joué sur Board Game Arena uniquement, et je trouve franchement super adaptation, parce qu'en général dans Board Game Arena, ou trop souvent au moment du scoring, on nous met un truc et puis pouf, on dit ah t'as fait tant de points, et du coup pour Far Away précisément, ça rendrait difficile le fait de se rendre compte de comment fonctionne ce scoring et comment est-ce que en fait ça a du sens de le préparer. Et là, vraiment, BGA propose le chemin retour en retournant carte par carte. Et donc, ça permet vraiment de saisir ce qui fait le cœur du jeu. Parce que Far Away, c'est un jeu qui a un cœur. Et c'est pas si fréquent, ni chez ces auteurs-là, ni, je trouve, de manière générale, dans la production ludique actuelle. Et du coup, il y a plein de petits défauts que je lui trouve, mais c'est ce qui lui permet d'arriver dans les jeux qui sont que je trouve pas mal. J'ai parlé du scoring un peu anecdotique, c'est machin par les couleurs, blablabla, toujours les mêmes trucs. Je trouve assez bizarre aussi pour le coup que ce soit un jeu, alors que c'est un élément marketing fort qui n'est pas de mode solo, alors que honnêtement, les éléments d'interaction sont assez limités, c'est vraiment juste sur l'initiative, vite fait pour prendre un truc avant, mais franchement c'est rarement pour ça qu'on pose telle ou telle carte. J'avoue que moi, toutes mes parties, j'avais l'impression d'être dans mon coin, je trouve que ce côté-là est assez superficiel, et notamment aussi, il y a un truc qui m'embête plus, c'est que c'est tellement un jeu solo que je trouve qu'il y a plein de jeux où au moins à la fin ça a du sens de comparer son score. Là, je trouve qu'on vit tellement la partie chacun dans son coin que comparer les scores à la fin, ça a pas de sens, c'est assez absurde, parce que les parties, et donc nos scores peuvent se dérouler tellement différemment selon ce qu'on arrive à prendre, selon ce que le jeu nous offre. Et c'est pas forcément de l'action, enfin du fait de l'action des autres, c'est pas qu'on a moins bien joué que les autres, c'est juste que notre partie s'est déroulée comme ça. Et c'est intéressant, mais c'est pas intéressant de se comparer aux autres à la fin. Mais voilà, vous voyez, hein, y a plein de petits trucs qui me chafouinent dans Far Away, mais c'est un jeu qui donne tellement l'envie d'en parler que je pense que si je trouve le temps, et c'est rare quand même, c'est rare que j'ai le temps, ça, déjà d'une, mais c'est rare que je fasse ça, je pense que je ferai une vidéo spécifique sur Far Away, et sur, pas pour vous expliquer le jeu et tout, mais sur pourquoi je trouve qu'il est intéressant en tant qu'objet de discours. Alors voilà, bon, moi, au-delà de 2-3 parties, j'ai compris la dynamique, j'ai compris les contradictions apparentes un peu que propose le jeu, j'en ai fait un peu le tour rapidement, c'est pas un jeu qui va durer, mais encore une fois, malgré l'ennui de l'ordre de mes parties, si je dois le présenter à quelqu'un qui ne le connaît pas, j'hésiterai pas une seule seconde, parce qu'il mérite d'être découvert. Far Away, c'est donc un jeu que je trouve relativement faible dans son ensemble, mais qui a quand même une vraie idée, une idée forte, et qui donne envie de parler et de montrer le jeu. Du coup, pour moi, c'est gagné, et honnêtement, malgré les défauts, c'est plus riche que la plupart des jeux qui sont sortis cette année. Encore du jeu de pied avec celui-ci qui, dès son nom, Good Little Tricks, annonce la couleur, et c'est une proposition assez étonnante pour ces deux auteurs. D'ailleurs, pour moi, c'était l'occasion de découvrir Good Little Games, cette idée éditoriale où ils sont tous les deux, de proposer des jeux en print and play avec maximum 27 cartes, et parfois, voire souvent moins. Je vous l'ai déjà dit, hein, quand je parlais des button shave ou quoi, moi c'est vraiment des contraintes en termes de création que j'aime bien, parce que ça, j'aime bien poser des contraintes pour ensuite évoluer à l'intérieur. Ça garantit jamais un bon résultat, c'est pas ça la question, en tout cas en termes de création c'est intéressant. Donc Matthew Dunstan et Brett G. Gilbert, c'est deux auteurs. Qui travaillent souvent ensemble, qui travaillent pas que ensemble, qui sont prolifiques, qui sortent plein de trucs, et où c'est très très inégal en termes de production. Ils sont capables du meilleur, notamment Elysium, qui l'a mis vraiment sur ma carte des auteurs à suivre, les deux. Grand grand jeu Elysium, où je vous avais parlé aussi de Mandala, où il n'y a que Brett G. Gilbert qui a travaillé parmi les deux, il avait travaillé je crois avec Trevor Benjamin, mais c'est des auteurs aussi qui se vautrent dans des trucs oubliable, voire pire. Par exemple, Dunstan, il a travaillé sur Cozy Casa, ils ont fait tous les deux la Guilde des Expéditions Marchandes, ils ont fait le très mauvais Fairy Tail, et tout ça, ce qui est rigolo, c'est que c'est des jeux qui ont trouvé une voie, un éditeur, vers le circuit commercial, avec de la distribution, des traductions, des localisations et tout. Et pour moi, c'est assez savoureux de voir que ce petit jeu-là, de 27 cartes, proposé en print and play, pas édité, eh ben, il explose à peu près tous ceux que je viens de citer, dans ceux qui étaient médiocres, hein, peut-être pas Elysium quand même, mais il explose à peu près tout ça en termes de plaisir de jeu. Et comme quoi, voilà, enfin, les voies d'édition sont assez impénétrables. Ça montre que, de mon point de vue, c'est vraiment pas la qualité intrinsèque du jeu qui va mener au statut d'édition, qu'il y a plein de jeux qui sont peu valorisés, qui sont assez inconnus et qui vont être bien meilleurs que la plupart des sorties sur le marché. Quelque part, c'est rassurant. Ça veut dire qu'il y a toujours des trucs à trouver ailleurs et que, en fait, le truc du si c'est bien, ça va être édité, en fait, c'est faux et qu'il y a plein de trucs pas bien qui sont édités mais qui se vendent quand même et qui sont édités pas parce qu'ils sont bien mais pour d'autres raisons. Donc, ça, c'est un petit plaisir personnel, cette ironie, mais qu'est-ce que c'est Good Little Tricks? On est dans du jeu de pli à suivi obligatoire et on essaie d'avoir le moins de points possible en un certain nombre de manches qui va dépendre du nombre de joueurs ou joueuses. Le premier petit truc, c'est que chaque couleur ne possède pas le même nombre de cartes. Donc, par exemple, il y a deux jaunes et on monte comme ça, 3x, 4x, etc. Et en gros, quand on joue des cartes, on va rassembler les cartes jouées de chaque couleur dans des colonnes. Donc par exemple, on va mettre toutes les cartes jaunes ensemble une fois qu'elles sont jouées. Et une fois que toutes les cartes d'une couleur sont jouées, lors du pli qui permet à la dernière carte de la couleur de jouer, la personne qui gagne le pli va récupérer toutes les cartes des couleurs complétées. Il peut y avoir donc plusieurs couleurs qui se complètent en même temps si on a complété plusieurs couleurs parce qu'on n'a pas pu suivre, par exemple. Et tout ça, en fait, chaque carte, c'est des points. Et je rappelle, on essaye d'éviter les points. Ça donne des situations assez amusantes, des espèces d'accélérations en fin de main, des fenêtres de choix quand même assez fréquentes, qui évitent le côté où on peut parfois jouer un peu de manière automatique. Ça force un peu à structurer le cerveau ici et là. Il y a aussi la possibilité de, comme disent les Anglais, de shoot the moon, de viser la lune, parce que si on arrive à tout récupérer, alors faut avoir la main pour, hein, mais un peu comme dans la Dame de Pique, on va pas prendre les points, mais c'est tous les autres, nous on va faire 0 et les autres vont tous ou toutes faire 27 points, donc c'est pas négligeable, et c'est pas facile, mais c'est quand même quelque chose de faisable et d'envisageable. Encore une fois, si vous avez aucun atout en début de main, c'est peut-être un peu chaud, mais bon. Et comme c'est faisable, du coup c'est une menace en fait, qu'il faut prendre en compte, qu'il faut surveiller, et parfois ça va mener à des sacrifices de telle ou telle personne pour éviter que tel adversaire ne parvienne à prendre toutes les cartes. Et dans ce cas-là, ben voilà, le truc c'est de pousser l'autre à se sacrifier, des espèces de dynamiques un peu de semi-coopération ou quoi. Et il y a un truc que je trouve un peu raté, c'est qu'il y a un atout dans ce jeu, et je trouve que ce qui est un peu bof, c'est la manière dont fonctionne la couleur d'atout, qui est un peu superficielle, et pas très très, un peu superflu plus que superficielle d'ailleurs. C'est un atout qui va bouger au cours de la main, ce qui ça est plutôt cool, hein, y a pas de souci. Mais en fait, ce qui va déterminer la couleur d'atout, c'est que c'est toujours la... Alors, je vais essayer d'être clair, c'est toujours la couleur qui possède le moins de cartes et dont toutes les cartes n'ont pas encore été jouées. Donc au début de chaque main, ça va être le jaune, parce que les cartes jaunes, elles vont pas avoir été toutes jouées. C'est la couleur où il y a moins de cartes, il y en a que deux. Par contre, si toutes les cartes jaunes sont jouées, donc les deux cartes d'atout, ben ce sera la prochaine couleur dont toutes les cartes n'ont pas été jouées et qui possède le moins de cartes. L'idée comme ça, ça paraît rigolo, on se dit « Ah ouais, c'est rigolo comme façon de changer l'atout », et ça donne quelques situations assez rares malheureusement, qui sont intéressantes, où du coup, l'atout va changer, ça va complètement changer la valeur de notre main, et dans les faits, ça apparaît vraiment rarement, souvent le jaune reste l'atout quasiment jusqu'au bout de la main, donc... ça tombe un peu à plat cette idée, mais en dépit de cette faiblesse, je trouve que c'est, voilà, enfin j'ai toujours passé des parties vraiment plaisantes, assez tendues, avec des surprises, des chouettes dynamiques, notamment le fait que jusqu'au bout on peut quand même rester dans le game, en prenant des risques et tout, mais voilà, donc si vous aimez le genre, franchement essayez, comme dit pour moi, ça écrase pas mal de jeux édités notamment par ces auteurs, et... évidemment, je préférerais nettement que les gens jouent à Good Little Tricks plutôt qu'à un Cozy Casa. Alors celui-ci, je le place un peu comme Far Away, pour des raisons différentes, mais disons que c'est les jeux où je suis surpris de le placer dans cette partie plutôt que dans les C'est pas ouf. D'autant que ben, je suis pas un grand client des autres jeux de l'auteur que j'ai pu essayer, que ce soit ben, Carta Ventura ou dans un autre genre Codex Naturalis. Et alors de loin comme ça, regardez, Knarr il avait pas grand chose pour m'attirer, il a un thème, les vikings qu'on a déjà vu plein de fois, bon les illustrations sont sympas mais voilà, un mélange de mécaniques pas forcément original et qu'on a déjà vu, une durée de partie, enfin ça m'avait l'air très calibré, et qui... voilà, c'est le genre de jeu qu'on joue et qu'on remplace par le premier jeu venu qui remplit les mêmes cases, bon voilà, de loin comme ça... Et a posteriori, donc en ayant fait plusieurs parties, il y a un peu de ça. Et il y a un peu de ce côté, ouais, bon, ok, j'ai déjà joué à ce jeu, mais j'aime bien quand même. Il se retrouve là, et du coup, je trouve ça vachement agréable et vachement intéressant de constater tous ces reproches que je fais régulièrement, de constater que je fais les mêmes reproches à Knarr, mais que je prends quand même du plaisir à mes parties, parce que ça pousse forcément à se questionner sur ben, qu'est-ce qui fait la différence entre celui-ci et ceux que je rejette en bloc tous les mois. Alors attention, parce que je parlais de Faraway, mais c'est un sentiment quasiment inverse de Faraway. En fait, Faraway, il avait une idée forte qu'il menait à des lieux pas très intéressants, alors que Knarr, lui, il a pas vraiment d'idée forte, il a des trucs déjà vus, pas très mémorables, mais qui, moi, m'emmènent dans des territoires ludiques où je prends plus de plaisir. Les raisons pour ça, c'est multiple. Déjà, le jeu, ben, il utilise des mécaniques, des dynamiques qui me parlent. Je vous parlais du stop ou encore avec Circus Locati. Moi, voilà, tu mets du stop ou encore dans un jeu, ben, en général, je vais accrocher. On est déjà dans de la course. C'est un jeu de course. C'est quelque chose que je préfère en général au truc de collection, ou bien où on compte les collections en fin de partie, au nombre de tours fixes ou quoi. C'est pas de généralité, évidemment, mais c'est une dynamique qui crée de l'interaction tout de suite et que j'ai tendance à préférer. Ensuite, il y a ce côté où quand on joue une carte, on active toutes les cartes de la couleur qu'on vient de poser. Je crois que c'est un peu Deus qui fonctionne comme ça, et c'est un sentiment de création de moteur que moi j'aime toujours, d'essayer d'optimiser un peu son truc, et c'est assez satisfaisant en termes de cascade de trucs, et puis de crescendo. Mais surtout, ce que je retiens et qui vraiment fait la différence pour moi, il y a ce côté de... on transfère en fait le moteur des cartes vers un autre moteur, on détruit presque un moteur au profit du second. Ce second, il est constitué par d'autres cartes qui sont donc les cartes Drakkar qu'on va acquérir grâce à des ressources. Et c'est vraiment ça que je retiens cette dynamique-là. Et ça amène un certain rythme dans le jeu avec vraiment des petits moments à choisir. Un peu comme un déclin à Small World où on se dit « Bon ok, j'ai toutes ces cartes, mais tant pis, je vais les sacrifier. J'arriverai plus à optimiser le combo, mais c'est pour acheter cette carte-là qui va optimiser mon autre moteur. » Et après, bon, voilà, tout le reste, hein, la récolte des ressources, les éléments de flexibilité, tout ça, c'est très très classique. C'est pas extrêmement excitant, c'est vraiment là juste au service de ce double moteur. Mais du coup, Knarr, ouais, c'est une bonne surprise, et puis surtout, ouais, un bon moyen pour moi de me questionner sur les éléments qui vont différencier les jeux que j'apprécie et ceux que j'aime pas. On repart dans les jeux de pli avec un jeu uniquement à 3 qui doit son nom, en fait, Knaves, Knaves, j'imagine qu'on dit. C'est l'autre façon de nommer les valets, hein, en anglais. Vous savez, on peut les appeler Jacks ou les Knaves, du coup, je l'ai appris avec ce jeu. Du coup, le nom colle tout à fait, puisqu'en effet, c'est les 4 valets qui sont au cœur du jeu, puisque c'est des cartes qu'il va falloir éviter de récupérer parce que c'est des points négatifs, alors qu'on essaie plutôt de marquer des points. Sinon, on est dans du jeu où on va viser, je sais plus, c'est 20 points ou quoi, enfin, en tout cas, un certain score pour mettre fin à la partie. Et tout bêtement, chaque pli remporté, quelles que soient les cartes qui sont dedans, vaut un point. Y compris les plis qu'on remportera avec les valets, mais si on gagne des valets, bah, ça nous fait perdre aussi des points, 1, 2, 3 ou 4, selon le valet qu'on prend. Et c'est un mélange, du coup, ouais, entre un Badger's Pli avec atout, et un peu la Dame de Pique, avec le côté Trick Avoidance, donc esquive de pli, je sais jamais, on essaye d'éviter des plis. Mais du coup, il n'y aurait pas que les cœurs ou l'unique Dame de Pique, il y a vraiment 4 cartes qui font perdre 1, 2, 3 ou 4 points, et du coup, c'est pas la même dynamique, parce que y a voilà, je sais plus c'est lequel qui fait perdre un point, mais celui-là, on est prêt à l'accepter. Il y a une espèce de hiérarchie un peu dans les cartes à éviter. Là où la Dame de Pique, ben, il y a surtout la Dame de Pique qu'on essaye d'éviter. Et surtout, il y a ce mélange-là qui fait que le fait qu'on gagne quand même des points avec les plis, ce qui n'est pas le cas dans la Dame de Pique, sauf si on gagne tous les plis, mais bon. Enfin, tous les cœurs et la Dame de Pique, je crois, il me semble, hein, dans Dame de Pique. Mais du coup, là, la plupart du temps, on veut quand même gagner des plis. Alors que dans la Dame de Pique, si tu prends aucun pli, ben, c'est plutôt une bonne partie en général. Là, non, tu vas en prendre, mais tu veux pas prendre certains. Parce que tout le monde va un peu en prendre, mais toi, tu veux juste... du coup, il faut éviter ceux où il y a les valets, quoi. Et mine de rien, c'est pas grand-chose, mais ça suffit à ajouter une dynamique bien spécifique, avec un rythme assez particulier, un peu de prise de risque. Et en tout cas, moi, ça me correspond bien plus en termes de choix que la Dame de Pique, où je vous en avais parlé il y a quelques mois, mais je trouve qu'on tourne vite à jouer de manière un peu automatique, et avec des mêmes structures de mains. Ici, c'est pas beaucoup plus compliqué que la Dame de Pique, hein, et j'ai l'impression que... dans les choix qui nous sont offerts, on est un peu plus souvent sollicité, un peu plus souvent actif, et je trouve que du coup l'ensemble de la partie est aussi moins monotone. Il faut plus faire gaffe un peu à ce qui est joué. Sans doute pas un incontournable, mais si vous êtes 3, que vous voulez changer un peu des classiques habituels, écoutez, essayez Knaves. On reste dans les jeux de cartes un peu anciens, même si, Knaves, on savait pas qui était la personne qui l'a créé, on savait pas trop la date. Là, il y a un auteur, une date de création identifiée. C'est un jeu que j'ai joué sur application, et a priori, c'est un jeu quand même assez populaire, et un jeu qui a plein de dérivés, de noms différents également, pour ça, et plein de petites variantes dans la manière de jouer. Alors moi, j'ai jamais joué encore à Skull King, qui, a priori, rajoute pas mal de choses, mais clairement, Oh Hell, c'est un ascendant assez direct au niveau du cœur de gameplay, puisque l'idée, c'est que le nombre de cartes qu'on a en main va évoluer au cours de la partie, et qu'il y a une notion de pari qui, du coup, n'a pas le même enjeu, du fait de cette évolution, puisqu'on va pas avoir la même connaissance des cartes qu'il y a en jeu. Dans celui-là, dans OL, on peut jouer, et c'est en option dans l'application, on peut jouer soit en commençant avec 13 cartes et en retirant une à chaque nouvelle main, ou inversement, je crois que c'est le cas dans Skull King pour le coup, on commence avec une et on en rajoute à chaque main, et il y a aussi plein d'autres petites variantes qui sont un peu plus longues, où par exemple on va réduire sa main avant de la réaugmenter, ou inversement, bon bref, il y a plein de petites manières de jouer qui vont changer un peu la dynamique et surtout la durée de partie. Personnellement, moi j'ai beaucoup joué à la version avec la main qui se réduit, parce que moi j'aime bien la manière dont l'inconnu et l'incertitude ça augmente au fil de la partie, puisque de plus en plus de cartes sont mises de côté, alors qu'au début tout est distribué, il n'y a même pas d'atout et tout. Et quand on a moins de cartes, notamment les derniers rounds, on se retrouve avec 3, 2, 1 carte, bah, il y a plein de petites surprises, plein de trucs imprévus, et notamment aussi ça donne de l'importance à qui commence le tour, puisque ben, il y a d'autant plus de chances de gagner puisqu'il y a moins de cartes en jeu, donc il y a moins de chances qu'il y ait des trucs pour couper ou que les gens puissent suivre à la couleur et nous battre. Et alors j'ai aussi joué en augmentant le nombre de cartes. La dynamique n'est pas exactement la même, en tout cas le sentiment de jeu n'est pas le même, puisque on va faire les premiers tours vont être très courts et chaque main va allonger un peu sa durée. Là où ben, je trouve que quand on réduit la main, il y a un sentiment d'accélération que moi je préfère, ou à la fin vraiment ça va très vite et j'ai tendance à préférer ça. En tout cas voilà, c'est une dynamique assez simple, à côté d'un jeu quand même assez classique de jeu à paris, et où le système de paris et le scoring est assez quelconque, hein, c'est pas très original, c'est déjà vu, déjà joué et tout, mais même si bon, forcément voilà, la prise de risque diffère selon le moment de la partie, mais vraiment il y a ça a suffi à me donner un sentiment de jeu vraiment plaisant. Donc c'est une très chouette découverte de ce système, puisque c'est vraiment un système. Du coup, j'ai plus qu'à jouer enfin à Skull King pour voir justement ce que Skull King a apporté à ce système. Je crois qu'il y a notamment des cartes à pouvoir et tout, pour vraiment trouver une identité propre et pas juste être un plagiat d'un jeu traditionnel. J'avais râlé sur Triquetta, puis j'avais adoré Niette. Et bien revoilà ce bon vieux Stéphane Dora qui devient un petit peu un habitué du format, même si c'est pas Rainer Knizia non plus. Je crois qu'il avait jamais visité cette partie des C'est pas mal. Ce qui l'amène ici, c'est un jeu sorti en 2010, même si au look, on pourrait penser qu'il est plus ancien. Il y a un côté un peu anachronique à tout ça. Et le titre français, c'est incroyable, un primo cochon, je trouve ça merveilleux. J'y ai joué sur Yukata, donc le qui permet de jouer en ligne, et clairement, c'est un jeu qui gagne à être joué à plus de 2. C'est la configuration la principale dans laquelle j'ai joué, qui apporte évidemment un peu plus de contrôle. C'est pas une configuration qui est achetée, mais elle est un peu longuette, et puis je sais pas, mais... Alors, c'est comme pas mal de jeux de Stéphane Dora, que ce soit Niette ou For Sale par exemple, on est dans un système qui a deux phases en fait à chaque fois. Chaque manche, entre guillemets, est séparée vraiment en deux phases spécifiques. Alors d'abord, on va retourner des tuiles, et peut-être placer un pion dessus. Puis, quand tout le monde aura placé tous ses pions, on va récupérer des lignes de tuiles en partant de ses pions, donc dans le sens où on veut, et avec bien sûr quelques contraintes, on va aller pouvoir prendre toutes les tuiles jusqu'au prochain personnage, etc. Le tout, c'est pour un scoring un peu plus quelconque, qui vous le devinez, au titre, ça va, sur certaines manches, ça va valoriser les cochons, et il y a après une phase d'entretien où il faut nourrir ses bêtes, parfois avec d'autres animaux eux-mêmes, mais ce que j'en retiens, c'est surtout que c'est un jeu très très interactif, très très filou, notamment, en fait, il y a une forte interaction au niveau de la pose des pions, qui est aussi une question de tempo, est-ce que je le pose plus tôt, est-ce que j'attends pour voir où est-ce que c'est les lignes les plus intéressantes, mais du coup je laisse un peu plus de temps aux autres pour pré-shot certaines lignes, mais si je pré-shot certaines lignes, peut-être que les adversaires vont les bloquer. Donc il y a cette interaction lors de la pose des pions, et du fait de retourner les tuiles, puisqu'on peut se placer que sur la tuile qu'on vient de retourner, hein. On peut pas se placer où on veut. Et il y a aussi ensuite, évidemment, une interaction assez forte lors de la prise de ligne, puisque toutes les tuiles qu'on va prendre, c'est autant de tuiles que les autres n'auront pas, et qui étaient peut-être sur des lignes à eux ou elles. La partie est peut-être un poil longuette, notamment les phases de décompte, peut-être que ça pourrait être un peu écourté, je sais pas, mais j'aime vraiment beaucoup ce qui se dégage des phases que je préfère et des moments que je préfère dans le jeu, c'est pour ça qu'il atterrit dans cette catégorie-là. Si vous avez l'occasion, que vous n'avez pas peur d'un jeu quand même un peu méchant, un peu frustrant par moments et un peu coquin, n'hésitez pas à passer outre ces visuels un peu d'un autre temps, je vous conseille de lui donner sa chance. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais pour moi, Jekyll vs Hyde de John Hill, c'est, je trouve, un jeu majeur des dernières années, c'est un des jeux à deux que je préfère, et c'est encore plus le cas évidemment si on restreint le champ d'observation aux jeux de plis. Dans les jeux de plis à deux, il n'y a pas beaucoup mieux. Je vous parle souvent du Schnapson aussi, hein, mais bon. Et avec juste ce titre-là, qui est le premier que j'ai connu de John Hill, l'auteur coréen, pour moi, il est devenu une personne dont il fallait absolument que je suive les sorties. Et chaque proposition, chaque petit projet, je le guette avec pas mal d'attention. Et alors bientôt, chez Mandu Games, on va avoir une collaboration avec Gaëtan Bojano et Olivier Sipierre pour ce qui sera une suite spirituelle et coopérative à Jekyll vs Hyde. Moi j'avoue que même si ça m'intéresse, la perspective du spin-off, ça m'attire un peu moins que de vraies nouvelles licences, notamment que je suis pas méga fan de ce qu'a fait Olivier Sipierre sur Valbara, donc à voir, je reste curieux, hein, mais voilà. Et au-delà du circuit classique de l'édition, John Hill a aussi sorti des jeux, il me semble, si j'ai bien lu la règle, grâce à une espèce d'aide à la création dans Corée, notamment il a sorti Ptolemy, dont il est question ici, et également Hipparchus, que j'ai pas encore essayé. Et alors au-delà de la possibilité d'essayer Ptolemy en numérique, j'ai pu me le procurer grâce à Ben, qui est en fait quelqu'un qui est à Londres, un revendeur britannique qui fait plein d'imports de petits jeux comme ça du Japon ou d'ailleurs, et qui permet de se les procurer, alors soit effectivement directement dans sa boutique, soit en envoi, il faut un peu passer en privé avec, parce que sinon il le propose pas directement sur la boutique, mais c'est faisable. Je vous invite à visiter le site, c'est travelgames.co.uk, je vous mets tout ça en description, vraiment une chouette initiative. Et du coup, on est sur de l'édition maison et limitée pour Ptolemy. Ça se sent, dès qu'on reçoit le jeu et qu'on l'ouvre, ça se sent que c'est effectivement relativement artisanal. C'est une édition qui fait un peu le grand écart, parce que d'un côté, il y a les visuels qui ont été réalisés par Bijou, qui sont absolument charmant, même une espèce de petit vernis sélectif et tout sur la boîte. Les jetons de planète, eux, sont aussi des jetons de qualité, hein, rien de particulier, on pose des petits stickers dessus et tout, mais ça, voilà, y a rien à reprocher de ce côté-là. Et de l'autre côté, on a des cartes qui sont super super fines, que je trouve super fragiles. J'avoue que j'ai rarement manipulé des cartes aussi... aussi fragile, j'ai l'impression. Et le plateau, alors lui, c'est du tissu souple, d'une qualité qui est pas folle, qui garde un peu parfois quelques ondulations. Et également, les jetons planètes, ben, ils ont tendance à glisser un peu dessus au moindre contact. Ça donne une expérience, comme disent les anglophones, assez fiddly, vous savez, où ça bouge pas mal. Et du coup, ça rend l'expérience de jeu un peu laborieuse. Je pense que s'il avait été édité de manière plus traditionnelle, avec un éditeur et tout, sans doute qu'il aurait eu un plateau en carton plié en deux, peut-être, qui sait, un plateau double couche pour insérer les planètes. Voilà, c'est un moyen de montrer qu'au-delà de la création mécanique, etc., ben, le plaisir d'une partie vient de l'édition, parce qu'effectivement, quand les petites planètes elles bougent et qu'il faut les remettre et qu'on n'est pas sûr de où elles étaient, c'est un peu chiant. Et également, ça rentre aussi dans le côté édition, un mot des règles, qui sont en coréen mais qui ont été traduites en anglais avec l'aide de quelqu'un. Je vous avoue que les versions ont pu différer entre les parties, il y a des trucs où on était là, on se disait « attends, mais c'est bizarre », et même l'organisation, la structure, la clarté... C'est assez, ouais, assez amateur de ce point de vue-là. Là encore, hein, ça montre que c'est tout un travail de créer, de faire, relire et d'essayer des règles. Mais on va passer un peu donc sur ces détails d'édition pour revenir vraiment sur le cœur de jeu. Donc comme Jekyll vs Hyde et Hipparchus, on est dans du jeu uniquement à deux et compétitif. Pas comme le spin-off du coup de Jekyll. Mais contrairement aux deux jeux que je viens de citer, on n'est pas dans du jeu de pli, mais dans du jeu de défausse. Le but, c'est de vider sa main avant l'autre. Quand on a vidé sa main, on a un point. La première personne qui gagne deux points gagne la partie. On fait maximum 3 manches. Je vous ai parlé d'un plateau, pour vider sa main, c'est le plateau sur lequel vont se déplacer les planètes. Et donc en fait les cartes, c'est des cartes de planètes qui vont donc se déplacer sur ce plateau qui va former une boucle. Et donc on joue une seule carte à la fois, on déplace la planète du nombre de indiqué sur la carte. On a juste la contrainte de ne pas jouer une planète qui a déjà été jouée. Et également, on a la contrainte que la planète qu'on joue, elle doit arriver plus haut sur le plateau, plus loin de la Terre que celle qui a été jouée juste avant. Donc voilà, la petite contrainte. Et également, y a un autre truc, c'est que ben, les planètes, elles se déplacent pas toutes à la même vitesse. Je vous avoue que quand on découvre le truc, c'est assez opaque. Même s'il y a une petite carte d'aide hein, qui est proposée pour chaque joueur ou joueuse, on est là, on se dit « ouf, c'est super chiant à retenir », contrairement à la plupart des jeux de défausse où il y a vraiment une répartition assez standard de cartes. Mais c'est l'occasion de parler d'un élément que vraiment j'admire beaucoup dans Jekyll vs Hyde, et pour moi c'est presque la partie la plus intéressante de Ptolémy. Au premier abord, on se demande pourquoi est-ce que on a fait une répartition aussi chiante à retenir. Évidemment, le fait que toutes les valeurs soient pas les mêmes, c'est que chaque planète a du coup une dynamique et puis une espèce de valeur différente en termes de déplacement. Mais juste rapidement, on se rend compte que Mercure, elle se déplace plus, elle permet plus de mouvement, alors que Jupiter ou Saturne, elle se déplace beaucoup moins. Et c'est logique, en fait, il y a un côté très logique, parce que Mercure, elle fait plus vite sa révolution. Du coup, elle se déplace plus vite. Et voilà, une fois qu'on a capté ça, en fait, c'est cool parce qu'on n'a plus forcément besoin de retenir exactement chaque valeur, parce que, alors ça aide évidemment, il y a l'aide de jeu pour ça, mais ça permet de jouer aussi un peu plus à l'instinct et d'avoir une vision globale un peu plus générale et un peu plus facilitée de la vitesse un peu de chaque planète et de se dire ah oui donc là elle est là mais elle peut bouger vite etc. Et ça évite de revenir toujours à l'aide de jeu. Alors c'est un peu moins bluffant que dans Jekyll vs Hyde, mais je trouve que c'est vraiment une intégration thématique très très élégante, en tout cas plus que l'intégration des éclipses, que j'ai l'impression est plus là comme un élément de flexibilité mécanique. Mais ouais, je trouve ça vraiment super comme façon de donner du thème en fait à juste ces cartes-là. Reste que dans la version de base de Ptolémy, j'ai toujours un peu de mal à appréhender le contrôle qu'on peut avoir lors de la partie. Il y a quelques moves qui sont assez évidents, on va essayer de bloquer les cases du haut du plateau pour forcer l'autre à passer, et donc reprendre la main et donc se défausser plus vite. On va aussi essayer de garder une certaine variété de cartes en main, on va essayer d'utiliser les cartes Eclipse dont je parlais de manière un peu pertinente. Mais dans l'absolu, j'ai l'impression de pas avoir vraiment de prise sur le jeu. J'ai du mal à me dire que vraiment un choix est meilleur qu'un autre. Et les émotions suscitées par le jeu, c'est pas très intense. Au point que, au vu des attentes qui étaient suscitées par Jekyll, qui est vraiment un monument dans son genre, et où vraiment la tension est là, et les choix sont omniprésents, là je vous avoue que c'était une sacrée déception. Mais ce qui lui évite la partie des jeux pas ouf, c'est que, au-delà de son intégration thématique, qui, moi, je trouvais vraiment un exemple en la matière, il y a aussi des règles avancées, qui sont, je pense, les seules, en fait, avec lesquelles je vais jouer. Ça modifie un peu la répartition des cartes et, du coup, la dynamique de la main. Notamment, on va pas avoir le même nombre de cartes en main. Quand on passe, on va devoir piocher dans une pioche commune, etc. Les éclipses sont pas là au début. Donc, ça modifie un petit peu la dynamique du jeu. Mais ces règles vont surtout aussi rajouter une option qui est, au lieu de juste observer une planète, ça va être de l'examiner avec plus d'attention, un examen approfondi. Et pour la déclencher, en fait, cette observation approfondie, il faut jouer la même planète que celle qui vient d'être jouée par l'adversaire, ce qu'on n'avait pas le droit de faire dans les règles de base. Et du coup, quand on fait ça, on passe dans une autre phase où on est obligé de jouer cette planète-là. Si on peut pas, on doit passer. Et en plus, cette fois, au lieu du fait qu'elle doit arriver plus haut que la planète précédente, elle doit arriver cette fois à chaque fois plus bas que là où elle a été placée par l'adversaire. Ça a l'air de pas grand-chose comme ça, mais mine de rien, ça change pas mal les choses quand même, avec vraiment la possibilité de jouer de cette manière pour se débarrasser d'une... Si on a beaucoup de cartes de telle planète dans notre main, ça va permettre de s'en débarrasser, de prendre un peu l'ascendant là-dessus. Et il y a aussi le fait que ça donne vraiment un élément de tempo sur lequel on peut avoir la main. Donc ça rajoute un espace de choix qui est pas inintéressant. Alors ça rend pas Ptolémy incontournable, c'est vraiment pas un jeu d'escalade que je vais sortir à tout bout de champ, surtout que même dans les jeux d'escalade ou de défausse à deux, j'en ai que je préfère, par exemple 5-3-5 que je préfère, ou Linco. Mais au moins, disons que ça m'a permis de lui trouver une utilisation dans laquelle j'ai un peu l'impression de prendre plus de plaisir que dans la version de base. On reste donc sur une petite déception, j'espère que les autres jeux de l'auteur coréen ils vont être un peu plus marquants que ça. Il n'y a pas de top ce mois, mais c'est peut-être ce jeu japonais qui est sorti au début des années 2000 qui s'en rapproche le plus, et il a une petite actualité puisqu'il est sorti cette année dans une version un peu plus jolie et qui, disons au moins du point de vue de sa couverture, et c'est aussi Air Eco Plus, une version qui intègre Air Eco Recycle, je crois, je sais plus exactement le nom, qui était une réimplémentation de Air Eco, que j'ai pas essayé pour le coup. Non, on va pas se mentir, vous le voyez à l'écran, c'est pas très joli, c'est absolument laid, et en plus, dans la version Yukata à laquelle j'ai joué, c'est pas très lisible sur le nombre d'éléments de chaque carte, donc des petits soucis en termes aussi d'édition, mais on est dans du petit jeu de cartes, qui est plein de petits éléments, de petites interactions, et de questions de tempo que moi j'aime beaucoup. L'idée, ça va être de récupérer des points au centre de la table, les espèces de cartes industrie là, en posant pour les récupérer, il faut poser les cartes de la même couleur au-dessus avec un minimum de 4 objets. Et si on le fait, on récupère la carte qui est sur le dessus de la pioche, qui vont apporter certains points de 0 à 5 en passant par moins 2 également. Mais le truc, c'est que pour marquer les points, il faut au moins 2 jetons ou cartes de cette couleur là. Donc si je récupère juste le 0 ou juste le 5, ça me fait 0. Et donc ce moins 2, si on a que le moins 2, ça va parce que du coup, on marque pas les moins 2, puisqu'on a que cette carte-là. Mais évidemment, du coup, avoir le 5, donc prendre le 5, c'est plus intéressant que de prendre le 1, mais avoir que le 5, ça sert à rien, parce que là encore, on ne marquera pas les 5 points. Donc voilà, premier petit truc, il faut essayer de naviguer là-dedans pour prendre des trucs, essayer de prendre les plus intéressants, éviter ceux qui nous font perdre des points, évaluer si vraiment ça nous fait perdre des points, qu'est-ce qu'on a en retiré. Et donc il y a le fait que quand on pose des cartes au-dessus d'un lieu, qu'on récupère ou non le lieu, on va forcément récupérer les cartes qui sont en dessous et qui vont, par certaines règles, augmenter plus ou moins, et il va y en avoir plus ou moins à récupérer. Et du coup, forcément, on va aussi jouer en fonction des cartes qu'il va y avoir à récupérer, que ce soit la couleur des cartes ou leur valeur, ou leur nombre, tout simplement. Parce que selon, peut-être que j'ai envie d'aller là, parce que ça va me permettre de récupérer des cartes qui me permettraient d'avoir 5 points ou 4 points. Mais le truc, c'est que si j'en récupère trop, ma main, elle est limitée à 5 cartes. Si j'en ai plus de 5, à la fin de mon tour, je dois me défausser jusqu'à n'en avoir plus que 5. Mais en fait, on les défausse pas dans une défausse commune, on les défausse dans une défausse personnelle, et il faut savoir qu'à la fin de la partie, chaque carte de cette défausse fait perdre un point. Donc il y a quand même cette main contrainte qui fait que j'ai envie de récupérer des cartes pour essayer de trucs, mais je peux pas en récupérer trop, sinon ça me fait perdre des points. Donc voilà, vous le sentez derrière des apparences vraiment toutes simples, parce que je reste, c'est un jeu simple, mais il y a plein de petites conséquences à nos choix, il y a plein de petites décisions à prendre au cours de la partie, on fait des ouvertures aux autres, on essaye de créer des appâts parce qu'on espère récupérer un truc par la suite. On met vraiment plusieurs choses dans la balance sur l'intérêt de telle action à tel moment. C'est vraiment un jeu que j'ai beaucoup aimé, des sensations que moi j'aime bien. Je pense que je vais essayer de le récupérer, je sais pas ce que vaut la version Recycle. Et puis honnêtement, ouais, à voir si effectivement les parties s'enchaînent aussi bien en physique et que c'est pas lassant, parce que c'est aussi le risque avec ces petits jeux-là, c'est que voilà, il y a le côté nouveauté, et finalement on se lasse un peu et les dynamiques finissent par se répéter. Mais si c'est pas le cas, je pense que honnêtement ça pourrait être un jeu qui figure dans les tops à l'avenir. Pour l'instant, je le laisse ici, mais voilà, gardez-le à l'esprit. Je pense que c'est quand même le jeu que j'ai préféré ce mois-ci. Alors celui-ci, je dois en parler depuis Paris Ludique, où c'est Cyrus qui me l'avait fait découvrir, où j'avais une bonne première impression, mais j'attendais quand même le fait d'en avoir fait plus de parties et dans d'autres configurations pour justement un peu confirmer cette première impression. Alors évidemment faut pas laisser au-delà de la laideur du jeu, c'est pas la même laideur que Air Echo, mais c'est très laid aussi. Je crois que c'est fait par intelligence artificielle, si je dis pas de bêtises. Bon, honnêtement, il y a quasiment pas d'illustration, c'est vraiment des lettres à l'intérieur desquelles il y a des images qui représentent cette lettre, pour le M monstre par exemple, pour le C chat, mais c'est pas beau, quoi qu'il en soit, et la boîte elle est moche aussi, mais j'avoue que moi le nom de François Romain, donc qui est avec Cédric Caumont ici, hein, qui est l'ancien de Repoprod et qui a créé la boîte d'édition Captain Games, mais donc François Romain c'est l'auteur du très très chouette Soulclover, donc ça suffisait à me donner envie de lui donner sa chance, et je me suis dit ah ouais ok, j'aime bien Soulclover, et clairement, on est dans le même genre de mood qu'un Soulclover, c'est-à-dire qu'on est dans des jeux d'association d'idées. C'est pas des jeux d'ambiance où vraiment on va se marrer autour de la table, c'est assez studieux comme ambiance, mais c'est quand même le même genre d'accessibilité qu'un Codenames, qu'un Soulclover ou quoi. Voilà, c'est pas, je sais pas, c'est pas du Just One par exemple, on est plus dans du effectivement Soulclover ou Codenames en termes d'ambiance. Et on est dans du jeu coopératif, je trouve que le scoring il est nul, on va pas se mentir. Déjà, c'est souvent difficile de faire des scorings dans ce genre de jeu. Just One, par exemple, fait un choix qui peut être contestable aussi, qui provoque assez peu d'enjeux. Du coup, nous, on joue avec d'autres règles un peu pour compter les points. Je crois qu'on fait juste un tour de table, mais sinon, ça peut faire une partie un peu longuette et tout. Mais je trouve que dans la proposition, il y a quelque chose de assez familier au niveau des sensations qu'on ressent, mais il y a quand même une certaine identité, un peu comme le faisait Soulclover, d'ailleurs, parce que vraiment, Soulclover, de loin, on se disait « Ah oui, ça va encore être un Codenames-like », et finalement, en jouant, on se rendait compte qu'il avait ses spécificités. Donc c'est très cool. L'idée, c'est qu'on va essayer de faire deviner des mots par association d'idées. C'est exactement le genre de jeu que moi j'aime beaucoup, hein. Des cryptos restent un de mes jeux préférés et tout. Et la contrainte principale dans Side, ça va venir des lettres qui vont être disponibles. On va à chaque fois avoir deux lettres disponibles, et on va en choisir une, et cette lettre va forcément constituer l'initiale de notre indice. Évidemment, on est dans du jeu coop, mais à communication limitée, donc on n'a pas le droit de se dire « Hey, tu penses pas qu'on dirait ce mot-là et tout ?» Non, on a notre mot en tête, et il faut qu'on essaie de le faire deviner à nos partenaires sans le citer. Donc on peut dire « Ah ben, c'est un mot de tant de lettres, c'est un mot qui fait plutôt appel au sens du mot qu'il faut deviner, ça fait plutôt appel à aussi un jeu de mots, que sais-je » Et tout ça, en fait, on en discute. Et les personnes qui doivent deviner, donc qui sont deux, les deux capitaines, je crois, qui s'appellent, tandis que les autres, justement, doivent faire deviner, les personnes qui doivent deviner vont entendre toutes ces discussions. Et clairement, il faut y faire attention parce que ça peut parfois permettre de deviner des mots qui ne sont pas utilisés, qui pourraient constituer des indices. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et alors, les premiers tours, ils peuvent laisser un peu de côté, mais petit à petit, il y a pas mal de subtilités qui se révèlent avec, par exemple, il va y avoir des moves qui vont être plutôt « Ah ben, je vais utiliser cette lettre-là », non pas parce qu'elle constitue un très bon indice, mais parce que la lettre suivante, c'est vraiment un indice qui devrait les mettre sur la voie, qui devrait leur permettre de deviner. Donc voilà, travailler plutôt un peu à moyen terme plutôt qu'à très court terme. On peut aussi, et c'est précisé dans la règle, ce qui est assez rare et je trouve ça plutôt cool, organiser les indices déjà donnés. Des fois on se pose la question dans ce genre de jeu, est-ce qu'on peut faire ça ou pas ou quoi, c'est rarement précisé, là c'est le cas, c'est-à-dire qu'on peut, les règles disent que n'hésitez pas à rassembler les trucs par catégorie, par hiérarchie de l'importance de l'indice, celui-là c'est un indice vraiment, vous savez dans Just One on a souvent ça, on finit par dire celui-là tu ferais mieux de le regarder après, et ben là on peut le faire comme ça dans Sight, c'est écrit dans les règles, alors dans Just One ça pourrait s'apparenter un peu de la triche si on veut. Donc ouais, là il y a ça, il y a aussi on peut par exemple mettre une carte à l'envers pour montrer que l'indice qu'on a donné c'est en fait un contraire, donc ouais c'est bien d'avoir tous ces éléments là dans les règles de jeu, c'est pas si fréquent. Et il y a, moi j'ai fait une partie qui a une progression très très chouette en fait à observer parmi les gens qui découvraient, c'était que des personnes qui découvraient le jeu, et au début les personnes autour de la table, bon, c'était un peu l'ennui, les gens étaient dubitatifs, ça avait l'air d'ennuyer pas mal tout le monde, au point que je me disais, bon, tant pis, on va arrêter, sinon, et puis on fait juste un ou deux tours. Alors, en fait, petit à petit, les gens se sont mis dans le jeu. Il y a les petites subtilités qui se sont mises en place, avec notamment des discussions des deux côtés de la table en parallèle, de la part des capitaines qui discutaient des indices précédents et de la part des autres qui réfléchissaient aux indices. Il y a aussi eu quelques moments de surprise quand on pensait, et ça arrive fréquemment quand on pensait avoir le même indice, « Ah ouais, moi j'ai cet indice avec cette lettre de tant de lettres. Ah ouais, moi aussi. » Et là, quelqu'un dit son indice et « Ah, bah c'était pas ça. » Et ouais, c'est vraiment... une partie qui m'a bien plu parce que je voyais vraiment, enfin moi j'avais un peu ce regard aussi avec du recul puisque je connaissais le jeu et je voyais vraiment l'évolution de la relation des personnes au jeu sur l'espace seulement d'une partie, c'était assez cool. Je vais finir en disant que j'ai pu essayer aussi à deux joueurs ou joueuses et c'est un système assez chouette. Un feeling un peu à la Codenames Duo ou à Focus qui sont de très bonnes références pour moi parce que on va devoir il y a un côté ping-pong et on doit céder, parfois on doit se priver de certaines choses, on va sacrifier un mot parce que l'autre on pense qu'il a une meilleure idée ou au contraire ben on n'arrive vraiment pas à voir et donc on va utiliser un truc alors que l'autre aurait pu l'utiliser pour nous. C'est un ping-pong assez satisfaisant, là aussi on est dans une ambiance très très studieuse. Évidemment, à plus de personnes, ben, plus de cerveaux, ça facilite un peu les choses. Par contre, attention quand même, c'est un jeu qui peut amener au jugement sur les indices donnés, plus que d'autres jeux. Parce que évidemment, quand on connaît le mot à faire deviner, en fait, les indices qu'on donne et l'espèce de constellation d'indices, à côté on se dit « ouais mais quand même quoi, c'est clair ». En fait, quand on n'a pas l'indice, c'est pas forcément clair. Ou bien telle personne va pas avoir la même référence ou quoi et n'arrive pas à faire le lien. Un peu comme ça peut être dans Just One, mais Just One crée pas cette tension-là, ce côté un peu jugement. Dans Sight, c'était plus le cas. Alors, je sais pas exactement pourquoi, mais en tout cas, ouais, ça peut créer des petites tensions à table, et notamment un sentiment pas très agréable pour les personnes qui arrivent pas à deviner. Voilà, ça c'est quelque chose qui arrive dans d'autres jeux, hein, dans un Time's Up ou quoi, quand on a l'impression d'être nul. C'est clairement un jeu qui va faciliter ce complexe d'infériorité et ce sentiment un peu d'être pas très bon, notamment si les autres sont là à juger le fait qu'effectivement on trouve pas. Donc attention quand même. Donc pour le coup, à vous de voir comment ça marche autour de votre table et avec vos camarades de jeu. Si vraiment c'est trop inconfortable, qu'il y a des gens pas à l'aise, n'hésitez pas à interrompre la partie. Hein. Le plus important, c'est que quand même que tout le monde se sente à l'aise. Certains jeux le favorisent plus que d'autres. Il est moins marquant hein, que d'autres jeux que je pourrais sortir en mêmes occasions, hein, qu'un Just One qui est plus immédiat ou qu'un Decrypto, dont je préfère le système. Mais en tout cas, partie après partie, c'est rigolo parce qu'autour de moi, j'ai eu des retours assez mitigés ici et là. Mais moi, il a trouvé vraiment sa place dans ma ludothèque et sur ma table tout au long de l'été. Allez, on retrouve Corentin Lebras une fois de plus dans cette catégorie. Cette fois, il n'est pas avec Yohann Goupil, il est avec Anthony Perron, à qui on doit notamment Dive, qui est sorti il y a quelques années, qui avait une bonne idée de base, même si j'avais trouvé ça assez dispensable. Alors, clairement, Skate Legend, vous risquez de ne pas en entendre autant parler que Far Away, notamment parce que ben, l'éditeur est aussi moins connu et a moins de puissance marketing, disons, et que ben, Far Away a plus quelque chose à dire et plus quelque chose à proposer, parce que Skate Legend, il a clairement pas la même force de proposition. C'est un stop ou encore, voilà, qui est acceptable, qui s'enrobe finalement d'un thème qui est pas très utilisé hein, dans le jeu de société, qui est le skate. Et alors attention, hein, vous attendez pas un truc simulationniste, ou peut-être il y aurait un côté presque physique, et essayer de faire les bons mouvements ou quoi. Non, il n'y a pas le petit skate, je sais pas si vous avez vu ça au collège, les petits skates qu'on déplaçait avec les doigts, non, rien de tout ça, c'est un jeu de cartes. Le côté skate, c'est vraiment juste que, voilà, si on va trop loin, on risque de chuter, et puis voilà, les cartes ont des petites figures et tout, bon. Ça reste assez limité hein, au niveau de la thématisation, mais bon. Pourquoi pas celui-là plutôt qu'un autre hein. Je veux dire, le Far West de Hit, on le ressent pas plus non plus. Vous le savez, je m'en doute, ça fait partie de ces jeux, de ces genres en tout cas, le stop ou encore, auquel je suis très sensible, que moi j'aime beaucoup, et avec lesquels je suis plus tolérant qu'avec d'autres, typiquement avec les jeux abstraits dont je parlais avec Microdojo. Moi c'est mon truc, le stop ou encore, c'est vraiment un de mes genres préférés en termes de sensation de jeu. Et alors Skate Legend, bah, il apporte pas grand-chose finalement à ce qui existe déjà, hein. Ça se place dans la lignée de ce que j'ai cité, un Hit, un Captain Carcass, en moins direct. Et pour le coup, vous voyez, pour Circus Locati, je disais vraiment, je vais pas remplacer Circus Locati par Hit, je le sortirai pour d'autres raisons. Alors que là, ben, clairement, le jeu de Knizia, je le privilégierais toujours à Skate Legend, parce que c'est un peu plus proche. Les différences principales, parce qu'il y en a quand même, qui font que Skate Legend, c'est pas juste Hit avec un thème de skate. Il y a quelques effets sur les cartes, il y a des cartes légendaires qu'on récupère qui vont être des petits objectifs en plus. Il y a aussi bah, le fait qu'il n'y ait pas l'interaction qu'il y a autour de la table. Hein. L'interaction va être plus dans la course au point que dans le fait de piquer des cartes aux autres. Et aussi, surtout, le fait qu'il y a un peu plus de contrôle, puisqu'on a aussi une main de cartes on peut jouer de notre main à certains moments, donc évidemment on ne se soumet pas au hasard de la pioche. Pas grand chose à rajouter sur Skate Legend, c'est pas un incontournable du genre. Moi je trouve que la thématisation, alors on est dans du skate, mais avec des skateurs ou skateuses qui ont des masques et tout, je sais pas exactement ce que ça veut représenter, mais en tout cas je trouve que le trait et les couleurs sont plutôt chouettes. Si je dois recommander du stop ou encore, évidemment c'est pas Skate Legend qui va me venir à l'esprit. Il va pas marquer l'année, il va pas marquer son genre, il va pas marquer grand chose, mais si vous aimez le genre autant que moi, si vous kiffez le stop ou encore, peut-être une partie de temps en temps, si on vous la propose, vous apprécierez ça. Et on va finir avec un jeu de 2016, et j'avoue que moi, en le voyant un peu comme pour Prime au cochon, je pensais pas que c'était un jeu de 2016 en fait. Hein. Je l'aurais plutôt placé en fait dans les années 2000, vous savez, 2005, 2007 par là, notamment peut-être du fait des illustrations de Michael Menzel, qui sont un peu datées, qui... Je trouve, alors ça dépend, mais ça fait un peu plus vieux que ça. Et j'avoue que, bah, malgré quelques touches qui trahissent sa décennie de sortie en termes de game design, lorsque j'ai fait ma première partie sur Yukata, j'étais là et je me disais, ouais, il y a ce côté jeu allemand des années 2000 un peu. Ce qui n'est pas du tout un point négatif, hein, notamment de mon côté. C'est une période que j'aime plutôt, même si, bon, là aussi, hein, y a pas mal de répétitivité et tout en termes de sentiments de jeu, mais voilà, c'est pas grave que ça laisse le goût d'un jeu allemand des années 2000 dans l'absolu. Alors, j'ai pu essayer que à deux aussi. J'avoue que je suis assez curieux d'y jouer à 3 ou 4. Je pense que du coup le plateau et la dynamique c'est un peu plus étroit, l'interaction ça doit être un peu plus coquin, un peu plus chaotique aussi. Évidemment à deux on est dans du chacun son tour avec un peu plus de blocage et tout et un peu plus de contrôle. Et alors ce qui trahit un peu le côté que c'est un jeu de 2016, c'est le côté un peu salade de points, vous savez, où les actions, on va pouvoir marquer des points ici, on va pouvoir avoir des collections à la fin de la partie, on va pouvoir ce genre de truc, avancer sur une piste, ce genre de bidule qui clairement bah, on sent que c'est un jeu de 2016 de ce point de vue là. Pas forcément très original, mais l'ensemble ça se rend compte plutôt bien, c'est assez cohérent. Moi c'est notamment aussi j'aime bien le système d'action qui est à base de pioche dans un sac, mais c'est pas la tuile qu'on pioche qu'on va activer, mais une ligne en fait qu'on va pousser un peu comme vous savez dans Labyrinthe, le jeu là en fond que vous avez sûrement déjà joué, pas Labyrinthe le Wargame, hein. Rien à voir, enfin le Card Driven. Et donc ces petites tuiles on les pousse, ces petits jetons, et on va activer tous les trucs de la ligne, sauf celui qu'on a chassé du plateau. Et ça va aussi rajouter évidemment des petites contraintes, puisqu'on va, on va plus pouvoir agir sur cette ligne si quelqu'un l'a déjà fait. Je trouve que c'est un bon niveau d'aléatoire, aussi ça crée de l'interaction avec les autres, avec les adversaires. Je trouve que vraiment le temps de réflexion pour choisir son action, c'est exactement dans la zone que moi j'aime bien. Et puis, bon voilà, j'ai dit qu'il y avait un petit peu ces scories, entre guillemets, du jeu des années 2010, où il y a plein de petits trucs un peu partout, où tu te dis, ah oui, ben tu pourrais le retirer, ça changerait pas grand-chose. Il y a quand même l'idée des cartes. Alors j'ai dit, hein, des fois on peut les utiliser à la fin de la partie pour marquer des points. Des points parce qu'on a tant de tuiles de tel type... ce genre de trucs pas très originaux, mais on peut aussi parfois les utiliser en cours de partie, et donc voilà, il y a un peu cette petite hésitation à faire, ce petit choix. Il y a aussi des petits lieux où on peut se placer pour des questions de majorité, mais parfois aussi pour activer des trucs, notamment certains pouvoirs. Et du coup, bon, c'est un mélange qui, bon, qui est pas incontournable, hein, vous pouvez vous passer de découvrir Ulm, hein, et Ulm, je sais pas, en tout cas c'est pas ULM, hein, rien à voir, mais moi c'est une expérience de jeu que j'ai vraiment trouvé agréable, et c'est un équilibre global qui, moi, me convient très bien. L'auteur, donc Gunther Burkhardt, j'en avais parlé pour Potato Man, qui n'a absolument rien à voir, mais ouais, avec Ulm, il confirme que c'est un auteur dont j'ai envie de creuser un peu la ludographie, notamment, je sais qu'il a fait aussi Zeeland, dont j'ai entendu de bons échos ici et là, donc je reste curieux. Voilà, on arrive donc à la fin de cette vidéo, une fois de plus, qui est... un peu son temps, hein. Vous l'avez vu, hein, les premières vidéos durent à peu près 30 minutes, vous voyez que là je suis plus proche de l'heure et demie. Voilà, je pense que quand même chaque segment reste un peu concentré, et que en plus c'est chapitré, donc j'espère que ça va, vous me dites ça. Donc pas de top, hein, je vous l'ai dit, ce mois-ci malheureusement, mais quand même, vous l'avez vu, hein, des choses assez recommandables, d'autres qui peut-être vont atterrir dans les tops les mois à venir, peut-être même d'autres qui sait, passeront des déceptions à des choses plutôt pas mal, selon les configurations, pour ça, n'hésitez pas à suivre les autres formats, notamment l'hebdo jeu de société, où je reviens à chaque fois sur les jeux que j'ai fait, et si mon avis évolue, je le dis là-dedans. Il y a aussi, comme je l'ai dit, d'autres jeux, hein, qui restent à confirmer, je pense ici à Robotrick ou à Harvest, où j'ai fait plusieurs parties, où vraiment je sens du potentiel, on le verra, j'ai une liste longue comme ça de jeux dont il faut que je parle, mais dont j'attends un peu une confirmation, ou des informations pour en parler. En tout cas, En tout cas, n'hésitez pas, encore une fois, si vous prenez le temps, si vous aimez cette vidéo, à partager tout ça, à mettre les petits pouces, les petits likes qui vont bien et tout ça. Je vous retrouve aussi dans les commentaires pour parler soit de mes choix, hein, que vous soyez ou non d'accord avec, et ou de vos découvertes à vous, et peut-être de choses que vous voudriez recommander dans différents genres de jeux de société. Alors on se retrouve normalement dans un mois à peu près, hein, en octobre, fin octobre, début novembre, pour parler des découvertes d'octobre. Et je vous avoue que pour le moment, c'est pas brillant, hein. Je vous avoue que la liste de jeux va plutôt du côté du pas top. C'est assez désastreux là pour l'instant. On croise les doigts. Peut-être que certains des jeux à confirmer, je vais avoir le temps d'y rejouer. En tout cas, quoi qu'il en soit, bon, c'est pas grave, hein. L'important c'est d'en parler et d'essayer d'en dire des choses plus ou moins intéressantes. Et puis qui sait, moi il y a des trucs que j'aime pas et qui peut-être vont vous parler dans ce sens-là. On se retrouve donc d'ici un petit mois. En attendant, prenez bien soin de vous. Attention, hein, je sais qu'on est en octobre et qu'il fait encore 30 degrés, ou pas loin. Tout va bien, n'est-ce pas? Mais prenez soin de vous, et si les températures deviennent automnales, effectivement, couvrez-vous. Hein. Allez, ciao.